Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonjour, 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 bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. Et ce mois-ci dans EPO, nous partons à Tokyo le 10 février 1990. Ce jour-là, la star mondiale de la boxe Mike Tyson, champion invaincu des poids lourds, affronte un adversaire quasi inconnu, James Buster Douglas. L'issue de ce combat ne fait guère de doute. Le monde de la boxe ne se pose qu'une seule question: combien de temps va tenir le pauvre challenger face à Iron Mike, qui a pour habitude de mettre KO ses adversaires en un temps record? Mais ce combat, qui ne devait être qu'une formalité pour le champion du monde, s'avéra beaucoup plus compliqué que prévu. Et ce jour-là, le public médusé du Tokyo Dome verra le grand Mike Tyson pour la première fois de sa carrière au tapis, faisant de ce combat l'un des plus grands exploits de l'histoire de la boxe. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai le plaisir de recevoir mes fidèles sparring partners, yeah. À commencer par Sarah.
Bonjour Mickaël.
Bonjour Olivier.
Bonsoir Mickaël.
Bonjour Younes.
Bonsoir Mickaël.
Et un retour, bonjour Chloé.
Salut, je vais parler encore plus loin du micro ce soir.
On est ravis de t'accueillir pour ton deuxième épisode. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Allez, venez! Je vais laisser de la musique. Alors surtout, ne faites pas de mouvements brusques.
Non, qui vous êtes-vous?
Silence, silence!
Mike Tyson.
Chut, c'est mon moment préféré, là. Allez, tous en cœur.
Monsieur Tyson souhaiterait savoir pourquoi son tigre est dans votre salle de bain.
Ouais, mais attendez, attendez, ça c'est... Hey.
C'était un extrait du film, vous l'avez reconnu, Very Bad Trip de Todd Phillips, sorti en 2009.
C'est pour ça qu'il est connu, non, Mike Tyson?
C'est surtout pour son rôle, effectivement, dans Very Bad Trip.
Et pour son tigre.
Alors, et pour surtout son petit brin de voix, parce qu'il pourrait chanter avec nous presque,
mais
Mike
ouais,
Tyson.
Ouais,
tellement
douce,
il chante bien.
Légèrement suave. Ouais.
Alors, avant de faire un petit tour de table pour savoir si vous aimez la boxe ou pas, je fais une petite annonce aux éditeurs pour vous annoncer qu'on fera une annonce en fin d'épisode. Donc restez avec nous après, oui, l'anti-doping.
C'est très important.
Annonce, une petite annonce à vous faire. Mmh. Alors, petit tour de table. Est-ce que vous aimez la boxe déjà et que vous évoque Mike Tyson? Et je vais commencer par Younes, tiens. Parce qu'il va être bourré, je pense, dans une demi-heure, donc vaut mieux lui tenir la parole.
Non,
tout de suite.
J'adore la boxe et Mike Tyson, c'est un peu comme Jordan ou Michael Jackson, c'est les années 90 pour moi. C'est, voilà, ouais. Ça représente une époque, ça représente un parfum, un truc où tout était mythique, tout était légendaire tout de suite, tout était monté en sauce. Et ouais, de bons souvenirs. Même si j'ai pas eu la chance de voir beaucoup de combats à la télé, parce que bah, en France, on n'a pas forcément des retransmissions, on n'a pas forcément le direct avec les décalages horaires, etc. Donc on avait l'actualité, on avait genre quelques secondes au JT et puis fin de l'histoire, mais bon, ça a contribué à créer la légende, voilà.
Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de matchs diffusés. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Enfin, j'ai même pas réussi, en fait, à trouver les matchs dont on va parler en français, puisqu'ils n'étaient pas, diffusés.
Non, ils n'existent pas quasiment, sauf Canal qui a fait l'effort à un moment donné.
Mais après une certaine période.
Après une certaine période, voilà. Ouais, effectivement.
Chloé,
Moi, je suis super forte sur Wii Sport. J'ai affronté, moi, Mike Tyson. Non, moi, je connaissais pas ou très peu la boxe. Je connaissais les noms récurrents. Mohamed Ali, Mike Tyson, je connaissais. J'ai tout découvert là pour préparer l'émission. Je me suis dit, je vais commencer par le match Douglas Tyson. C'est 45 minutes, c'est une course de MotoGP. Qu'est-ce qui peut m'arriver ?
Ça va. Oui.
Ça a été très compliqué. Et du coup, entre chaque moment où il n'y avait pas d'énergie, je faisais des pauses, justement pour ces combats un peu énergiques, coups de poing.
Qui sont plus courts que des courses de MotoGP, pour le coup.
Pour le coup, ouais, c'est très très court. Oui, et en fait, ça me redonnait beaucoup d'énergie. Et voilà, j'étais entre deux eaux, en fait. Oui. Ça m'a plu. Et en même temps, il y a vraiment des moments où c'est beaucoup trop long.
D'accord. Sarah ?
Moi, c'est un sport qui me met assez mal à l'aise, que je trouve d'une violence extrême. Il y a vraiment un peu pour moi quelque chose des gladiateurs, genre battez-vous pour de la... Enfin, sauf que là, c'est battez-vous pour de l'argent, où on met
Ça dépend au niveau amateur, c'est pas le cas. Mais...
Non, c'est pas le cas. Mais bon, l'effet en fait des matchs de Tyson, etc., ça me fait vraiment un peu ça. Sachant que la boxe, ça reste un sport qui est souvent pratiqué par des gens qui viennent de milieux sociaux assez défavorisés. Et donc, c'est un peu une porte de sortie. Et donc, tu as un peu quand même ce truc-là de pauvres gars qui s'en sortent grâce à ça. Mais en fait, c'est quand même des sports qui laissent souvent des séquelles très lourdes. Pour moi, c'est un peu trop violent. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal en fait à regarder un match et prendre du plaisir à regarder. J'ai plutôt envie que ça s'arrête.
C'est un point de vue que je peux comprendre. Et toi, Tyson, ça t'évoque surtout tu disais,
Tyson, en fait, moi, je le connaissais surtout pour... l'oreille arrachée de Holyfield qui a fait le tour du monde et même
l'oreille a fait le tour du monde. Il l'a envoyé par Chronopost sur tous les continents.
Oui.
C'est l'oreille de Holyfield.
et même si on n'ira pas on détaillera pas ce moment,
non, on parlera pas.
Résultat, j'ai re-regardé un peu et c'est vraiment très symbolique de Tyson en fait qui devient fou et qui ne contrôle plus rien et en fait il sent qu'il perd et il fait n'importe quoi. Ouais. Et c'est assez symbolique, je pense, de Mike Tyson.
Perte de contrôle.
Il y a quelque chose un peu de Zidane, moi en fait, je trouve, dans Mike Tyson, quoi. C'est un mec qui a un talent énorme, hein, qui a un talent énorme et qui est capable de péter un plomb. Alors Zidane, il a pas mordu l'oreille de Materazzi.
Tyson, il a mis à terre complètement. Materazzi est mort après son combat contre Tyson.
Ouais, et puis c'est quand même pas tout à fait le même personnage. Mike Tyson, il est beaucoup plus sulfureux quand même.
Tyson, oui, c'est sûr. C'est sûr. Olivier.
Oui.
Oui, bonjour.
Bonjour.
T'es bien installé ?
Moi, j'aime beaucoup la boxe. Je la regarde peu, mais je l'aime beaucoup quand je la regarde parce que j'aime beaucoup ce combat tactique. J'aime beaucoup le fait qu'on peut parier autant qu'on veut au départ. On peut en parler autant que l'on veut au départ. Ça reste, au final, deux personnes sur un ring qui sont les seules à savoir quoi faire et en écoutant son adversaire, en comprenant ses points faibles. Je trouve que c'est une danse corporelle assez intéressante et j'aime beaucoup la boxe pour ça. Mike Tyson, je rejoins ce que tu dis, comment tu t'appelles, Younes,
oui.
Sur le fait que... Que
je supporte plus non plus.
J'en peux plus de sa gueule.
Calmez-vous. Sur le fait que c'est, pour moi, ça représente l'Amérique légendaire un petit peu, celle de Jordan, celle que je connaissais pas en fait, celle que tu entends d'abord, que tu vois à travers
oui,
un documentaire ou voilà, et
ça
que tu n'as jamais vu. Enfin, j'ai pas vu ses exploits sportifs, mais malgré tout, c'est Mike Tyson. Malgré tout, c'est Michael Jordan. Malgré tout, c'est Florent Balmont. Enfin, il y a toujours voilà, c'est une légende derrière.
Même en âge de pouvoir les voir en France, tu n'avais pas l'occasion réellement de participer au spectacle.
Non.
C'était tellement décalé.
La première fois que j'ai vu Michael Jordan, c'est dans Space Jam, quoi. Tu vois, donc.
Et Tyson dans Very Bad Trip.
Moi, Tyson, c'est un peu comme Sarah. Je connaissais très peu le personnage. J'avoue que j'y connais pas grand-chose en boxe, quasiment rien. C'est pareil, j'ai pas l'occasion de regarder beaucoup de combats. En revanche, je rejoins un peu Olivier. Je trouve que c'est un sport qui a quelque chose de magnifique. Moi, je suis très touché de voir en fait les boxeurs se foutre sur la gueule et en fait une fois que le match est terminé, se prendre dans les bras, se féliciter, se relever quand il y en a un qui est à terre. Je trouve ça assez touchant et il y a quelque chose de très chorégraphique dans la boxe. Et pour en avoir pratiqué à une échelle infime puisque j'ai eu l'occasion de
avec ton cousin non d'ailleurs
suivre, avec mon cousin de suivre trois cours de boxe, c'est un sport qui est très dur, qui est très physique.
C'est peut-être le sport le plus physique
avec
en termes d'intensité
avec le bowling.
Avec le bowling.
D'ailleurs, quand tu t'entraînais, t'étais très fort. On t'appelait Mickaël les points de feu, c'est ça ?
Après, dans les...
Les moignons de feu, c'était.
Dans les côtés positifs, et on va voir que c'est le cas aussi de Mike Tyson, d'ailleurs, dans son parcours, c'est que la boxe, et d'ailleurs la salle de boxe, et il y a des... Je ne sais plus quel sociologue qui a étudié ça, qui...
Pierre Bourdieu.
Qui allait faire de l'observation
T'en connais un autre, Olivier,
sociologue ?
Oui.
Bourdieu, Pierre.
Et qui montre à quel point la salle de boxe aussi te structure, t'apprends à respecter des règles, etc.
Bien sûr.
Et c'est assez intéressant tout ça. Et Mike Tyson, ça va un peu le structurer au début et puis après.
Après, ça va le détruire. On va parler justement, c'est une bonne transition, on va parler de Mike Tyson dès ses débuts.
J'ai cru que t'allais dire décédé.
Oui, moi aussi.
Merde, non, une sacrée nouvelle.
Voilà, donc Mike,
tu nous
Mike Tyson est mort. Allez, bonne soirée.
On l'a entendu ici en premier.
Oui,
okay, au podcast.
Il est né le 30 juin 1966.
Un jour après moi.
Un jour après toi, c'est le 29 juin. Par contre, toi, c'est plutôt 26.
Oui.
1866.
Oui.
Michael Gerard Tyson, oui, qui naît à New York.
On dit Gérard, je crois.
Oui, Gérard.
Michael, Gérard Tyson.
Entre nous, c'est Gérard.
GG. On l'appelle GG, ouais.
C'est pour ça qu'il mord l'oreille d'Olifield. On va se dire, t'es nul, GG.
Qu'est-ce que t'es nul, GG.
Il naît dans le quartier de Brooklyn, dans un quartier assez sympa.
Alors, alors, un quartier qu'on appelle très modestement la capitale du crime,
oui,
qui est le quartier de Bronzeville,
ouais,
qui est aussi le quartier de Reza, le chanteur et rappeur
Wu-Tang.
C'est un quartier un peu difficile.
C'est un quartier assez compliqué.
Quelques problèmes sociaux. Ouais.
Voilà, violence. D'extrême violence.
Trafic de drogue, trafic d'armes et puis...
Il traverse ça, il ne peut pas y échapper également pendant son enfance.
Alors, son papa est proxénète.
Oui, c'est sympa. Hein.
Ouais. Et puis il les abandonne assez jeune.
Son beau-père, son papa prend très vite pour toi la poudre d'escampette.
Exactement, ouais, la poudre d'escampette.
Il est élevé par son beau-père et sa maman, Lornard.
Lorna, ouais.
Qui sont aussi plutôt un peu violents,
qui se battent. En fait,
au quotidien.
Au quotidien, oui.
George Michael.
Très bien, je me tais. Chloé, alors t'as quelque chose à dire peut-être?
Moi ça va, je suis très forte sur Wii Sport.
Tu l'as battu sur Wii Sport, c'est ça?
Tu dis si ça te fait chier ce qu'on dit.
Ça me dérange pas si je mets un peu de musique.
Attendez,
je vais baisser la lumière, je vais mettre un peu de musique.
Je vais mettre du DJ Barbelivia là, excusez-moi. Et donc les beaux-parents qui se battent, enfin le beau-père et la maman qui se battent, à tel point que lui dira, d'ailleurs la maman qui n'est pas en reste, hein, qui bat.
Coup pour coup,
à tel point qu'il dira que ce n'est pour lui une femme qui, enfin, c'est une femme qui se bat, et battre une femme, c'est pas du tout anormal parce que ça fait partie de son enfance.
Et alors, il vit une enfance au milieu de plein de violences, ouais, où il peut aussi. Il raconte, il y a un documentaire qui s'appelle Tyson, qui a été tourné en 2008.
Sur Netflix, ouais.
Pour la petite anecdote, pour les auditeurs, c'était marrant parce qu'on s'est dit, c'est l'occasion de regarder ce documentaire pour préparer cette émission.
Et
en fait, il a été supprimé la semaine juste avant l'enregistrement.
Moi, je l'ai vu.
Moi, je l'ai vu aussi. Ouais.
Voilà, vous l'avez vu parce que vous êtes vraiment des gens 2.0. Excusez-nous.
Oui. Ouais, voilà.
Et c'est assez intéressant parce qu'il raconte qu'il a pu se faire bastonner un peu petit et que ça lui a donné envie aussi de pouvoir rendre coup pour coup. Et surtout, j'ai quand même envie de le dire, même si c'est pas primordial, parce qu'on en avait un peu parlé tout à l'heure, et j'ai trouvé ça génial. Et il en parle d'ailleurs dans le documentaire. Depuis tout petit, il a une passion. Qui met un peu de douceur dans sa vie. Il est colombophile.
Ouais.
Alors, ce n'est pas un fan de Colombo.
Il fait de la dentelle au crochet.
Ni l'inspecteur.
Ni l'inspecteur. Il est fan de pigeons. Et déjà petit, il a genre 13, 14 pigeons.
J'imagine trop. En vrai, moi, je suis un pigeon. Je suis entre les mains de Mike Tyson. Mais je me chie dessus, quoi.
Non, mais en vrai, c'est...
D'ailleurs, c'est ce que font les pigeons. Ils se chient dessus à chaque fois.
Et le gros contraste, c'est qu'à l'époque, en fait, Mike Tyson, il est très doux, très calme, et c'est même une victime en fait.
C'est le souffre-douleur des caïds du quartier. On l'appelle Bouboule parce qu'il fait 70 kilos à 10 ans. Et il va, comme tu dis Chloé, il va retrouver cette douceur avec les pigeons.
On en parlera certainement.
On va pas donner son poids en chiffres, on va compter en younes.
Alors 70 kilos,
ça fait
70 kilos, c'est 27 younes. Hein.
Cette douceur, on la ressent en fait même plus tard en fait, sa voix et même son comportement en fait. Très sincèrement, on a l'impression quand même que le type n'est pas non plus un monstre au quotidien. On a le sentiment que ce type est plutôt capable de vriller et de devenir quelqu'un d'autre. Mais on a le sentiment quand même que le mec est plutôt attentionné. C'est pas forcément non plus...
Je sais pas, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça.
Je veux dire,
il tombe quand même un petit peu dans les coups foireux, un peu dans la délinquance. Si bien qu'à l'âge de 11 ans, après une attaque à main armée, il est placé dans une maison de correction de Johnstown qui s'appelle Tryon Dragon School.
Et juste, du coup, on parle pas de ce qui lui est arrivé quand il avait 7 ans.
Il a été. Alors, c'est lui qui le dit.
En 2014, il a fait la révélation, effectivement.
Ouais,
à une émission de radio aux États-Unis, il aurait été violé. Ouais.
D'avoir été abusé sexuellement. Ouais. Ouais.
Par un adulte. Ouais,
tout à fait. Et donc il se fait pincer par la police. C'est la 83e fois qu'il se fait pincer au moment où avant de rentrer
il a 11 ans
au moment de rentrer à la Tyrion House là.
Tyrion House, on fait un effort s'il te plaît.
Tryon.
Tryon House. C'est la 83e fois que les flics le pincent.
Hein, ouais, mais là c'est pour braquage et complicité dans un braquage. Forcément il tombe dans une sorte de maison de redressement et il a la chance d'être là au moment où un autre grand champion, un déjà grand champion qui passe pour un peu pour une idole auprès des jeunes, Mohamed Ali.
Oui, tu peux dire son nom. J'ai l'impression que c'est tabou.
Voldemort. Autour du pot. Voldemort. Donc il le croise et ça bouscule un petit peu ses idées et puis ça lui donne envie peut-être de faire de la boxe.
De faire de la boxe, exactement. Ouais. Il est repéré par un gardien qui travaille là-bas qui s'appelle Bobby Stewart, qui est un ancien boxeur et ancien vainqueur des Golden Gloves, qui est une compétition, un tournoi de boxe amateur, et qui évidemment remarque ses capacités athlétiques. Il est impressionnant, comme on dit, puisqu'à 13 ans, il a l'air déjà d'en avoir 18 et pèse 8 younes.
80 kilos,
c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Et d'ailleurs, pareil, sur les images, on va le voir lors de ses premiers combats où il est très jeune, il a 14-15 ans. Et vraiment, il a l'air d'en avoir 20, quoi. Enfin, jamais tu te doutes que c'est un petit ado.
D'ailleurs, Bobby Stewart, qui va le prendre sous son aile avant de le présenter à, dira que parfois, quand il s'entraîne avec lui, il se prenait des droites et il était presque limite KO, quoi.
Il était vraiment connu pour ça. Il avait vraiment des punches qui
étaient dévastateurs.
On va revenir sur ses qualités de boxeur.
Et grâce à lui, justement, il va le formater un petit peu parce que sa condition, en fait, justement, pour essayer de le former et le sortir de tout ça, c'est qu'il ait des meilleurs résultats. Ouais. Autant scolaire que sportif, et ils vont tous être ultra impressionnés par les efforts de Tyson en si peu de temps.
Oui, parce qu'il faut préciser que quand il arrive à Tryon School, il est quasi analphabète.
Il est complètement laissé à son destin, donc il n'a pas d'éducation, il n'y a personne qui l'entoure, il est très jeune, même si physiquement il a l'air d'être un adulte, il est complètement l'idiot du village un petit peu.
Il avait peur d'aller à l'école et il y a une période de sa vie où il allait à l'école que pour manger le midi et ensuite il partait. C'est parce que le reste du temps en fait il se faisait tabasser par tout le monde.
Alors en 79, Stewart l'oriente vers un monsieur qui a son importance dans sa vie, qui s'appelle Cus D'Amato. Qui est
je disais Cus.
Cus, oui, tu
en fait
dire.
C'est la contraction de Constantine.
Ouais, de Constantine, exactement. Qui est l'ancien entraîneur d'autres champions, notamment Floyd Patterson, qui à l'époque est le plus jeune champion de poids lourd de l'histoire. On verra que ça va changer, puisqu'il va se faire voler la vedette par, spoiler, Mike Tyson. Et également entraîneur de José Torres, qui est reconverti dans l'aide aux jeunes défavorisés.
Qui sont d'ailleurs tous les deux dans la sphère de Cus D'Amato. Et de l'école du centre de réinsertion que propose Cus D'Amato à Catskill dans le New Jersey ce centre à Catskill que va rejoindre du coup
Mike Tyson
car Cus D'Amato va choisir de le prendre sous son aile. Il est impressionné par Mike.
Il le repère assez vite.
Il lui dit tout de suite, si tu m'écoutes bien, je ferai de toi le plus jeune champion des poids lourds de tous les temps.
Pour bien
comprendre leur relation, ça va quasiment devenir un père. Donc il l'emmène avec lui, Mike Tyson va vivre chez lui, ça va vraiment être le père qu'il n'a pas eu puisque son père s'est barré.
Est-ce que vous avez vu ces images? Il y a des images qui ont été tournées où à l'époque il était à table avec Cus D'Amato, sa femme. J'ai trouvé ça hyper touchant en fait. Il a l'air tout calme.
Il a ce qu'il n'a jamais eu et ce qu'il n'aura.
Un cadre paternel et familial.
Il a un cadre. Cus D'Amato, c'est un personnage assez passionnant dans la boxe. Il a 60 ans peut-être à l'époque, 60-70 peut-être.
Je crois qu'il est
à vérifier, mais pour lui, ce qui est le plus important, outre évidemment le travail, c'est la psychologie.
Oui, oui, c'est bien sûr, ne jamais abandonner la personne. Et c'est, il comprend très vite que avec Tyson, avec Mike Tyson, c'est psychologiquement que ça va être important. D'où le fait de l'entourer, le fait de le protéger. Parce que s'il est protégé et s'il est entouré, il a tellement de talent et tellement physiquement, il est
un avantage.
Incroyable. Vraiment, ouais, ouais.
De toute façon, et voilà, et on verra que. Alors, ce sera, quand ce ne sera pas le cas, ce sera dévastateur pour Mike.
Il y a une adaptation qui est prévue au cinéma de la vie de D'Amato, qui sera interprétée par Bruce Willis.
C'est vrai ?
Voilà, donc c'est annoncé l'an passé au Festival de Cannes. Et le film est en préparation. Bruce Willis va jouer D'Amato. On n'a pas encore le nom du casting pour Mike Tyson.
Mais
ça,
Freeman,
va,
je crois.
Ça, va revenir, ça va revenir un petit peu dans l'actualité. Et effectivement, ça va s'appeler, je crois, Cornerman, donc l'homme du coin. Donc voilà, on va avoir ça certainement au cinéma. Là, pas
dans,
très
dans
longtemps.
Dans un des reportages que j'ai vu pour l'émission, il y a quelqu'un qui dit... D'Amato, et pourtant c'est la personne la plus littéraire que je connaisse.
C'est à son enterrement.
Non, c'est la personne la plus littéraire dans sa façon de s'exprimer. C'est une sorte de Bielsa ou de. Il y a ce côté.
C'était un boxeur raté en fait à cause d'une blessure à l'œil suite à une bagarre de rue.
D'accord.
Il a perdu quasiment un œil et en fait, forcément, ça l'a mis out du circuit. Et il s'est concentré et il a théorisé énormément sur la boxe.
D'accord.
Et forcément, il a formé des champions du monde. Et on lui rend hommage après sa mort, en fait, finalement, par sa méthode et par ses techniques et l'observation qu'il a sur les gens qui rentraient dans son gymnase. En fait.
Et sur Tyson, donc, au-delà donc, du côté psychologique, il va aussi faire de lui en fait, un boxeur assez complet, finalement, parce que Tyson a pour lui, au départ, la force physique.
Oui.
Sachant qu'en plus, c'est un boxeur plutôt petit.
Oui. Je sais plus. Pour sa catégorie, c'est plutôt trapu. Enfin, il faisait un 78, je crois.
Ouais, l'âge adulte.
Mais déclaré à 1,82.
Je sais plus. Et donc, il va lui apprendre aussi à être en mobilité constante.
Oui. Ouais, la fameuse technique dite de l'offensive furtive.
Ouais. Ça me fait rire. Oui.
Taper, bouger,
exactement. Et on va voir d'ailleurs que dans sa carrière, il va mettre beaucoup de gens KO. C'est vraiment sa grande.
Grâce à ça.
On oublie que c'est un très très bon défenseur. Voilà. Tyson, il se fait très rarement toucher. Ouais. En fait, il épuise un peu ses adversaires à faire cette espèce de 8 comme ça.
Oui, en permanence.
Fait bien. Olivier vient de nous le faire.
Il vient de nous mimer, une danse du ventre.
Je vous la ferai sur Insta, si vous voulez.
Mais c'est impressionnant. On dirait qu'il est monté sur ressort tellement il bouge.
Bah c'est gentil, mais tu peux me le dire directement.
Oui, c'est un peu impressionnant.
Et donc il esquive, ce qui fait qu'une fois que l'adversaire a utilisé tous ses coups, il n'y a plus qu'à ramasser avec une grosse droite ou gauche des familles. L'idée de la défense furtive, c'est qu'à tout moment, de toute façon, l'adversaire, à force de frapper, il va se découvrir. Et à tout moment,
le contre arrive automatiquement.
Alors, son arme fatale, c'est son crochet du gauche, il me semble, qui est très très puissant. Il met pas mal d'adversaires KO grâce à ça. Il participe il rentre dans la compétition petit à petit. Il participe en 81 tournoi national olympique junior. Il a 15 ans, il pèse 95 kilos.
Oui.
Et
il gagne. Avant son premier match, il est terrifié avant de monter sur le ring et qu'il a envie de s'enfuir.
Ouais. Et je trouve ça très beau de Cus D'Amato. Cus D'Amato qui a d'autres gens dont on va Kevin Rooney
entouré d'une équipe.
Kevin Rooney, Teddy Atlas, ce sont des noms qui vont revenir après, donc je l'ai dit.
Dans l'histoire.
Et Bill Keaton et Jim Jacobs, c'est vraiment la famille d'Amato. Mais Cus D'Amato qui dit de toute façon, mec, t'as peur, t'auras toujours peur. Ouais. La seule chose qu'il faut faire, c'est puncher du coup.
Ouais.
Punch, t'as pas le choix.
Et il va plutôt bien puncher pendant ce tournoi.
Ouais, en fait.
Vu qu'il va gagner ses 5 premiers combats, je crois, par KO.
Exactement.
Donc ça te pose un personnage, quoi.
Il gagne ses 5 premiers combats par KO et en demi-finale, il affronte Joe Cortez. Figurez-vous que j'ai l'enregistrement de ce combat en intégralité. Mais rassurez-vous, messieurs, dames, c'est pas très long.
Here we go. Bombs away, Jimmy. Let's watch this carefully. Because Tyson in the blue is a bomber. He's trained by no other than Cus D'Amato. And there it's all over.
Voilà, il aura fallu 8 secondes pour mettre Joe Cortez KO. Cet extrait est impressionnant. Alors, on l'a tous vu. Ce qui est hallucinant, c'est que déjà on comprend pas trop quel coup il prend parce que c'est un petit peu bizarre.
Ouais, ça percute. L'angle de caméra est pas forcément.
Ce qui est marrant, c'est qu'il prend un coup et c'est pas genre il tombe et il se relève, il titube. Non, c'est que le gars, il est raide.
En masse, ouais.
Il est raide, il a les bras en croix.
Mais et on entend le bruit, on entend le choc.
Ouais, on entend le choc par terre.
Un...
Ouais,
c'est d'un point de vue sonore, c'est impressionnant.
Les
aussi,
yeux sont blancs, il n'y a plus rien qui va.
8 secondes, quoi. T'as même pas le temps de fermer la porte, le verrou de la porte pour aller aux toilettes.
Il a éteint la lumière, comme on dit.
Même l'arbitre, je pense qu'il a même pas eu le temps de voir. Il a fait qu'est-ce qui se passe.
Alors, l'arbitre se penche direct sur Joe Cortez, il lui enlève son protège-dents et regarde si ça va quand même.
Bah oui, à ce stade, ouais, tu vérifies, quoi.
Et je crois que Tyson va relever Cortez, il me semble.
Ouais.
Après, oui, il me semble.
Il va tout de suite le relever.
Je sais qu'à la fin,
ses bras.
Il va vérifier quand il se lève. Il vérifie si ça va bien. Ouais. Il le tapote un peu sur l'épaule. Ouais. Ça va, mon gars.
Ouais, ouais. Et après, il lui remet le droit.
Pour être sûr.
Et après, il lui fait une balayette.
Alors, ça, alors il gagne des titres en amateur, hein, notamment ce tournoi national olympique. Hein, il va gagner la finale. Par contre, il a une grosse déception dans sa carrière amateur. En fait, il ne participera pas aux JO.
Il n'est pas retenu pour représenter les États-Unis.
Oui, exactement. C'est Tyler Biggs qui sera choisi pour représenter les poids lourds à sa place. Oui. Tyler Biggs, voilà, j'ai pas de blague sur ça, à part Chandler, mais c'est pas terrible.
Et après, il fait quand même une carrière amateur assez fulgurante.
Bah, il fait c'est 54 matchs, 48 victoires.
Oui. Et 6 défaites, c'est bien. Ouais,
c'est plutôt un bon ratio.
C'est pas mal, c'est correct.
6 mars 1985, pardon, premier combat de Tyson en pro. Bon, 19 premiers adversaires, il les bat tous avant la limite, donc par KO.
Peut-être que il faut peut-être dire en deux mots pour les gens qui connaissent pas du tout la boxe, comment se passe un match de boxe en juste deux mots.
Bah c'est 11 contre 11 avec
un ballon.
T'as pas le droit de jouer avec les mains. Pas le droit d'utiliser les mains. Non mais donc en fait un match de boxe se décompose en rounds. C'est pas toujours le même nombre de rounds. J'ai pas réussi à trouver la règle, mais parfois c'est en 15, parfois c'est en 10. Enfin, je suis pas tout à fait sûr de moi.
Je crois que ça dépend des catégories.
Et donc c'est des rounds d'une minute 30.
On va se faire défoncer par les auditeurs, ça va là encore.
Non, j'étais pas
sûr. En plus, c'est les boxeurs là cette fois-ci, on va se faire casser la gueule.
Moi je dis rien. Moi je dis plus rien.
Et donc il y a deux manières de gagner un match, on va dire. C'est soit t'envoies l'autre au tapis, KO. Pendant plus de 10 secondes, l'autre ne se relève pas et donc là, le match s'arrête. Soit tu vas jusqu'au bout des rounds, personne n'est KO et c'est les juges
qui comptent,
un nombre de points en fonction des coups qui ont été mis, etc. Et tu gagnes au point.
Ce serait marrant que ça se termine où genre t'as plus le droit d'avoir de garde et de défense et tu te mets chacun un tour de rôle à gros pain dans la gueule jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'écroule.
Ouais, mais c'est pas très juste pour celui qui
est en deuxième. C'est vrai.
Alors, en deuxième. Alors,
dans sa catégorie à lui, par exemple, les catégories de boxe, il y a des cibles différentes à atteindre. Là, comme il boxe que le haut du visage et le buste avec des coups de poing, avec des poings dans des gants matelassés. Et il faut savoir en fait, on sait jamais.
Il y a de la mousse.
Le MMA, il y a pas.
C'est les gants de boxe.
En fait, c'est les poings américains. Ça fait.
Et je voulais juste noter que du coup, les règles de la boxe ont été codifiées en 1865 par John Graham Chambers. Et il y avait plein de choses qui n'étaient pas définies, comme le port obligatoire des gants, la définition des catégories, parce qu'il y a vraiment beaucoup de catégories selon les poids, la limitation des rounds à 3 minutes, pas de coups sur des adversaires au sol, et les combats au finish.
Les règles ont évolué avec le temps, au vu des accidents et des corrections qu'on...
Parce qu'avant, c'était le pugilat, donc il n'y avait aucune règle.
Par contre, on est d'accord que si tu touches le ballon de la main dans la surface, il y a pénalty.
Ça
n'a pas évolué.
J'ai absolument rien à dire là-dessus.
Alors, je disais que ces 19 premiers adversaires donc, tombent avant la limite, donc par KO, dont 12 à la première reprise, donc round 1.
Donc moins d'une minute 30, c'est...
Moins de 3 minutes.
3 minutes.
Ouais. 3 minutes, pardon, j'ai dit 1 minute 30 tout à l'heure alors que c'est 3 minutes.
On va se faire défoncer par les boxeurs, Sarah.
Pardon.
C'est à ce moment-là qu'il reçoit un petit surnom.
Kid Dynamite.
Et la presse qu'il appelle comme ça, ça commence déjà à être un phénomène.
Ça commence un peu à buzzer, il commence un peu à devenir un personnage médiatique.
Et là, survient un événement triste.
Ouais.
Son mentor, donc celui qui l'a adopté quasiment. Et l'a protégé, lui a offert un cadre, comme tu disais, Olivier.
Cus D'Amato
décède
le 5 novembre 1985.
À 77 ans.
À 77 ans.
Oui. Il n'aura pas vu son poulain devenir champion.
Voilà, il n'aura pas vu son poulain tenir sa promesse. D'ailleurs, dans les vidéos, on voit Mike Tyson qui porte le cercueil.
Ouais.
Et tout seul.
À une main.
Sur un dos. Il le fait tourner à un moment donné.
Non, et pareil, dans le reportage, il dit qu'il était très fier d'être parmi les porteurs du cercueil de Kusamato. Enfin, tu sens que. Voilà, c'était son mentor, son père.
Alors, il y a un combat qui va faire beaucoup parler de Tyson qui a lieu le 26 juillet 86. Il bat Arvis, pardon.
Frazier.
Frazier, le fils de
Joe Frazier, ouais.
Éternel rival de Mohamed Ali.
Qui n'avait concédé qu'une seule défaite contre Larry Holmes et il le bat au bout de 30 secondes.
Ouais. Ding. Moi, je me dis vraiment que je suis contente de ne pas être fan de boxe parce que quand je vois le temps de certains combats, tu sais, tu vas voir le combat, tu te déplaces, etc. Mais, au bout de 30 secondes, c'est fini. J'espère que tu as la bière au bar.
Tu es encore en train de chercher ta bière, en train de te déplacer entre les fauteuils. Alors attends, c'est 14, c'est où c'est 14? Je comprends pas.
Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que parfois les combats sont annoncés quasiment 6 mois à l'avance et que bah, forcément les promoteurs font monter la sauce, les produits marketing autour se greffent, donc forcément l'enjeu grossissant, bah, si le combat dure 30 secondes, effectivement ça fait pas plaisir à tout le monde.
En 86, un tournoi est organisé à Las Vegas, j'ai trouvé ça plutôt drôle, pour réunifier le titre poids lourd. Alors petite explication, c'est un petit peu compliqué là-bas.
Moi j'ai rien compris.
Ouais, non, c'est très chiant. En fait, il existe plusieurs championnats du monde. En fait, il existe plusieurs ceintures.
Fédérations.
Parce qu'il y a plusieurs fédérations.
Pour des raisons globalement de thunes. Hein,
oui, vrai. Voilà. En fait,
de taxes. En fait, ouais.
On est sur du marketing, franchement.
On est sur du marketing. En gros, il y avait une fédération à la base, puis deux.
En fait, les fédérations américaines, il y en a eu deux qui ont concurrencé directement la fédération internationale. Ouais. Elles ont pris le dessus d'un point de vue du merchandising et d'un point de vue
de WA.
En fait, il y avait la fédération, on va pas revenir dessus, mais il y avait la NYSAC et la NBA,
la NBA,
à l'époque, qui étaient deux fédérations. C'était à peu près facile à ce moment-là. Là, la NYSAC s'est fait un peu sortir à cause de la WBA qui est arrivée, qui est encore actuellement. On pensait que la WBA allait récupérer et être la grande maîtresse des fédérations. Manque de bol, il y a un Mexicain qui a créé une autre fédération, qui était la WBC.
Oh là, ensuite, il avait créé une nouvelle fédération.
On va avoir des problèmes. Et ensuite, il y a eu la IBF. Faut savoir que il y a en plus de ça plusieurs champions différents dans toutes ces fédérations-là. C'est-à-dire que il peut y avoir plusieurs champions poids lourds. Poids léger, super, enfin c'est n'importe quoi.
Il y a poids mouche,
poids paille.
Et en plus,
aujourd'hui,
t'as différents champions, même dans la même catégorie.
En fait, il y a 30 champions, il y a 17 catégories.
Pour résumer, histoire d'être simple,
je vais finir. Il y a 17 catégories et il y a 30 champions.
Il est énervé.
Allez,
mets la musique.
30 champions pour 17 catégories, ce qui est aberrant. Et c'est aussi aberrant d'avoir toutes ces fédérations.
Donc ça dilue un petit peu le prestige d'une ceinture, en fait.
Pour résumer de manière triviale, parce que je pense qu'on a totalement perdu les auditeurs.
Non, moi j'ai trouvé
aujourd'hui,
ça très bien.
Aujourd'hui, il existe 4 ceintures, enfin 4 fédérations.
À l'époque
de Tyson, il en existait 3 déjà. Voilà. Donc quand il s'agissait de réunifier le titre, c'est-à-dire qu'en gros un boxeur réussissait à
gagner les trois ceintures,
voilà, tout simplement. Donc le tournoi a lieu à Las Vegas.
Bah, c'est facile de résumer comme ça, mais c'est pas vraiment le truc qu'on pourrait. Enfin bon. Ouais.
Tyson n'est pas invité, jugé trop jeune par les promoteurs du tournoi, dont un certain
Don King.
Alors Don King, retenez bien ce nom. On va revenir un peu plus en longueur sur lui.
Sacré personnage.
C'est globalement un mec assez honnête.
On reviendra sur Don King plus tard, mais disons que
bienfaisant,
protecteur. Pour vous situer le personnage comme ça, disons que en comparaison de Don King, Bernard Tapie c'est Mère Teresa, quoi. Voilà.
Je pense que Don King c'est le mec qui a le plus de procès au monde.
Ouais. Il a fait pas mal de cabanes aussi.
Il a fait pas mal de cabanes. Alors on va en
tout cas, il veut pas amener Tyson parce qu'il le dit trop jeune, mais il a surtout assez peur de lui. Il a peur qu'il soit néfaste, qu'il batte ses champions à l'époque.
Il batte ses boxeurs. Il est promoteur.
Et donc il a peur que ses champions se fassent battre. Mais le directeur de la chaîne HBO, sur laquelle vous pouvez regarder Game of Thrones.
Alors HBO, il faut quand même préciser si on.
À l'époque,
faisait son beurre sur la diffusion des combats de boxe. Ils produisaient très peu de séries en fait dans les années 80. Ils ont commencé fin des années 80, début des années 90, mais en fait ils étaient.
En fait, aux États-Unis, ils ont souvent surtout l'étiquette en fait de la chaîne de la boxe.
Bien sûr.
Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, les séries sont associées à cette chaîne. Mais
d'ailleurs HBO ça veut dire la boxe.
Alors ça c'est une excellente blague et j'aimerais qu'on qu'on l'oublie très vite en continuant de parler. Donc HBO.
Et donc il va insister pour que Tyson participe au combat parce qu'il pense que c'est la bonne affaire du moment. Mais j'ai pas trop réussi à trouver d'infos sur ce qui s'est. Enfin, est-ce que ce truc a eu lieu finalement?
Oui, enfin, oui, ça a eu lieu puisque.
Oui, oui, fait, complètement.
Le combat contre Berbick, dont on va parler tout de suite. Et,
d'accord, ça fait partie de.
Ça a été insufflé, ouais. Ouais, après par. Ouais.
Alors, alors à ce moment-là, Tyson, précisons, c'est 27 victoires, 0 défaites, dont 25 KO. Ouais,
depuis son entrée dans le circuit pro.
Ça cause!
Un peu comme ton palmarès à toi. Un peu comme ton palmarès à toi, Younes, finalement.
Et comme le mien aussi.
Ouais. Comme le tien,
alors,
Sarah. Ouais.
C'est le 22 novembre 86 que Tyson va rentrer dans l'histoire après une victoire contre Trevor Berbick, qui lui a 32 ans hein, à l'époque, qui est champion WBC, donc c'est l'une des trois fédérations.
Il y a 10 ans de plus.
Alors, il est connu, Berbick, puisque c'est l'homme qui a battu Mohamed Ali dans son dernier combat. En décembre 1981.
Ouais. Et connu pour l'avoir sorti un peu du circuit. Et puis, bah, voilà, c'était la fin de la légende. Et bah, Berbick est associé à ça, en fait. Ouais, ouais. Effectivement.
Pour info, je suis tombé sur l'info totalement par hasard. Berbick a été retrouvé mort en 2006.
Ouais.
Baignant dans son sang chez lui,
ouais,
en Jamaïque.
Horrible.
Et apparemment victime d'un homicide.
Ouais, un coup à la tête, en fait.
Ça fait règlement de compte, un petit peu.
Ouais, ouais.
Un petit peu, ouais, ouais. Drôle de vie.
Alors,
drôle, oui.
Et alors, bah, je vous raconte un peu le combat.
Oui, s'il te plaît, vas-y.
Oui, s'il te plaît.
Bon, ben.
Ting comme... Attends, je fais le. Ouais. Ting.
Alors, à ma gauche, le challenger, Mike Tyson.
Alors, rouge.
Le Tyson va tout de suite imposer sa force, va mettre des coups très violents. Donc, ça va aller assez vite. Il va quand même y avoir une première reprise qui va jusqu'au bout, mais où il semble déjà vraiment prendre l'avantage. Et dès la deuxième reprise, il va faire un enchaînement assez brutal qui va envoyer Berbick au sol. Il lui envoie son fameux crochet du gauche.
Du gauche, ouais.
Et à moins d'une minute de la fin de cette seconde reprise, Berbick à terre semble extrêmement secoué. Les images sont assez intéressantes parce que parce que tu vois, il va essayer de se relever plusieurs fois.
Ouais, c'est incroyable.
Et tu sens que dans sa tête,
son corps ne répond plus.
Il
ouais.
veut y aller, mais ouais. tu sens qu'en fait, ah bah
attends,
il est complètement assommé.
C'est incroyable. On dirait Younes complètement bourré. Le mec se lève une fois, il tombe dans les photographes, il se relève. Alors, il titube.
En fait, il tombe une fois. Alors il se prend le crochet du gauche, il tombe. Il essaye de se relever, il retombe, mais il sort presque du ring. En fait, il tombe presque en dehors du ring.
Avant ça, on voit que l'arbitre compte et on sent qu'il est pas sûr de le laisser repartir tout de
ouais.
suite.
Ouais.
La première
ouais.
fois qu'il
oh,
se
il a un doute,
lève,
ouais.
il
ouais.
compte, il dit t'es sûr, il y va et il tient même pas debout. Ouais. Enfin, c'est ouais. incroyable.
Non mais là il a plus la lumière, il a plus l'électricité.
Ah bah non, il a plus rien. Il heurte deux photographes qui sont juste derrière le ring qui prennent les photos. Il se relève une deuxième fois et là il se casse la gueule juste devant l'arbitre qui doit se dire oh bah là c'est peut-être fini là.
Oh bah c'est pas la forme de ces Berbick.
Bah alors Berbick. T'arrives plus à te relever Berbick.
Ouais, c'est exactement ce qu'il
alors,
lui a dit. Ouais.
Et alors, on mettra, j'espère qu'on n'oubliera pas cette fois, parce qu'on oublie à chaque fois. On mettra les images. Il faut absolument voir ce chaos. Il est impressionnant. On mettra les images. Parce qu'en plus, Berbick, c'est un beau bonhomme hein, quand même. Hein.
Il
est
hyper grand.
C'est un beau poulet. Ouais, ouais,
et
ouais.
Deux ans plus tard, on va parler de. Et en 88, on va parler d'un petit jeune, un certain Douglas, qui va aussi le mettre au tapis.
Oui. Tout à fait.
Donc, ouais. Comme quoi.
Destin
Berbick,
croisé. Comme quoi.
Ah ouais, je sais. Ah ouais.
Finalement.
Moi, j'ai deux petites anecdotes que je voulais vous placer avant.
Place-les.
On parle donc du titre de WBC que vient de gagner Tyson en mettant KO Berbick. C'est l'anecdote sur la chose. J'ai pas mal d'anecdotes sur la chose que je vous distribuerai au fur et à mesure. Il faut savoir que quand il a affronté Berbick pour le titre mondial, il avait la piste chaude, Mike Tyson. Il avait la piste chaude, il avait une blénorragie parce que Mike Tyson, vous allez voir que c'est quelqu'un qui pratique la chose régulièrement hein. jusqu'à 15 vrai. Fois par jour avec des femmes différentes, un peu comme toi Younes finalement. Wow. Et
il a 12
ans. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il était pressé d'en finir, je sais pas, mais en tout cas il avait le mec ça fait mal, bam
oui, mais
allez salut.
Il le dit dans le reportage, en fait il a tellement mal qu'il veut que ça aille vite.
Et j'ai une anecdote qui est plus intéressante quand même malgré tout, c'est un entretien avec Jack LaMotta qui était interviewé dans une émission télé juste avant le combat entre Berbick et Mike Tyson, et on lui demande quel conseil pouvez-vous donner à Mike Tyson, et LaMotta que vous connaissez peut-être vous auditeurs si vous avez vu le film Jingle Ball, il dit j'ai un conseil à donner, c'est de se rester concentré sur la boxe et pas autre chose, parce que très honnêtement, les mecs comme lui, les mecs comme moi, on finit toujours par attirer des ennuis.
Ne fais pas comme moi, ouais.
Et il ajoute, il va falloir penser à soigner cette chaude pisse. Alors, je sais plus du tournoi.
Tyson est champion du monde WBC. Voilà.
Il bat un record. Et 5 mois, donc il est le plus jeune champion du monde.
Et il détrône Floyd Patterson, donc.
On a déjà parlé.
L'ancien poulain de Cus D'Amato, c'est devenu le voilà. Et Cus D'Amato n'est pas là.
C'était 22 ans, c'est ça à peu près.
21 et 11 mois.
Ah, ouais, précisons, 11 mois, ouais.
Voilà, et alors que Mike a 20 ans, 5 mois, 23 jours et quelques heures.
Et
alors,
il ne va pas s'arrêter là.
Il ne s'arrête pas là puisqu'il va, comme on l'a dit, unifier les titres de champion.
Les ceintures.
Voilà, il va gagner les 3 titres. Ouais. Le premier, le 7 mars 87 contre James Smith, le titre WBA. Et le 1er août 87 contre Tony Tucker.
IBF.
La ceinture IBF.
Que ces deux combats, il ne les gagnera pas par KO.
Oui. Non, c'est vrai, ouais.
Ce qui décevra un peu le public qui était habitué. Non, mais on peut se dire peut-être que c'est dès ce moment-là qu'il y a un début un peu de relâchement. C'est le début de la gloire. Il va beaucoup. Enfin, non, mais oui, il reste très bon, mais il perd un peu de son mordant quand même.
Après il fait des quoi. Après, en 88, il explose quand même tous ses prétendants.
Il est encore au top pendant 3-4 bonnes années.
On va revenir sur le combat.
Alors, un des combats les plus emblématiques, peut-être le plus beau combat de Tyson. C'est 88, le 27 juin. À ce moment-là, Tyson, c'est 34 victoires, 0 défaite, 30 KO. C'est impressionnant.
Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, il devait. Il y a un boxeur qui s'appelle Michael Spinks, qui est invaincu et qui aurait dû se battre contre Tyson assez rapidement. Michael Spinks était le champion du monde, alors je suis désolé, mais je crois IBF.
Entre 85 et 87.
Et qui était disqualifié parce qu'il a refusé de jouer contre un prétendant la couronne. Et quand tu refuses, quand tu es boxeur, tu perds ta couronne. En fait, tu perds ta ceinture.
En fait, les fédérations sont très puissantes et imposent plus ou moins aux joueurs les combats.
Voilà, tout à fait. Imposent les combats. Et si le combattant refuse, il perd sa ceinture. Et là, donc, tout le monde attend quand même. Malgré tout, on sait que Michael Spinks est invaincu. On attend.
Juste une petite parenthèse, Spinks, c'est 31 victoires, 0 défaite, voilà. 21 KO. C'est pareil, c'est quand même impressionnant.
C'est un beau bébé. Et on attend ce combat qui va arriver en 88. Avant ça, il va y avoir plusieurs combats. Peut-être qu'on va.
Vas-y.
Il va y avoir plusieurs combats de Mikey contre divers.
Il retrouve Spinks, alors déjà, il y a le
combat contre Tyrell Biggs. Je ne sais pas si vous en souvenez, si vous avez suivi le début du podcast, qui lui a pris des Jeux Olympiques, donc il va jouer un peu avec lui avant d'en finir et de
un peu comme une revanche
avant de l'envoyer pied à terre dans les photographes. Il va combattre contre Larry Holmes. Pour la petite histoire, c'est une belle histoire, je trouve. Larry Holmes a battu Mohamed Ali.
Il a un peu humilié.
Il a humilié Mohamed Ali et Mohamed Ali est sur le ring avant le combat et lui dit dans l'oreille s'il te plaît, bats-le pour moi.
Ouais, venge-moi.
Chose qu'il va faire sans trop de difficultés avant la fin de la quatrième reprise.
Ouais.
Puis il fait un combat au Japon. Tiens. Oui. Première fois qu'il va au Japon, il joue contre Tony Tubbs. Là, c'est dès la deuxième reprise.
Ça vous fait rien? Eh ben pas lui.
Parce que lui, s'il y a un truc avec lequel il rigole pas, c'est la Tubbs. Donc, Tony Tubbs au Japon. Et au Japon, entre parenthèses, il voit, parce qu'il n'avait pas vu encore, l'incroyable célébrité dont il
l'incroyable
dont il
Tubbs.
International, parce que tous les Japonais ne demandent que lui.
Et
les Japonaises aussi.
Nous ne demandons que toi, nous ne demandons que toi.
Et tu fais trop, oh là là.
Ah, je sais pas,
je quitte ce podcast.
Et donc arrive le match contre Michael Spinks,
voilà,
qui va être un match en fait qu'il va au-delà de sa performance physique, qu'il va gagner aussi au mental, où on a l'impression en fait qu'il psychologiquement
il le détruit, il a perdu
avant même d'entrer sur le terrain, tellement en fait, il l'a impressionné.
Ce qui est impressionnant, c'est que tu sens Tyson, en fait je pense qu'il gagne ses combats avant même le premier gong, parce que ses adversaires sont terrifiés. Alors c'était déjà le cas de Berbick, regardez les images du combat contre Berbick. on voit qu'il est pas serein, Barbie, qu'il ose même pas regarder Tyson dans les yeux. Et Spinks, c'est la même chose, quoi. Tu sens qu'il a peur. Ils ont peur, les adversaires.
Face et en face, t'as cette montagne de calme et de sérénité, ouais, tout en noir, avec des chaussures noires. Voilà.
De calme et de sérénité. En même temps, il est très nerveux. Hein. C'est un budolaire. Il est très agressif.
Au début, hyper en explosif, entrant, je le trouve. Enfin, il y a rien qui transparaît.
Il y a rien qui transparaît comme tu dis.
Et sur une rocking chair avec une tisane.
Il fait du tricot. Non, mais ce que dit Chloé, c'est-à-dire qu'il a les chaussures noires, sans chaussettes. Il a un short noir, pas de peignoir, la coupe militaire. Et c'est tout.
Et c'est pas Berbick aussi qui a justement pour la première fois été en noir aussi, justement. Oui, il me semble que justement les commentateurs disaient tiens, c'est la première fois qu'il aimait vraiment du noir et t'avais cette opposition comme ça, et malgré ça ça a pas,
Berbick, ça a pas pris 91 secondes, hein, donc bon, ouais, ça a pas vraiment pris. C'est pour la plupart des observateurs le plus grand match de
Tyson,
de Mike Tyson à ce moment-là. Il y a une petite chose, enfin, on en parlera plus dans la partie de la dernière partie, mais il y a la mort de Jim Jacobs, qui était son promoteur, qui était issu de la famille Cus D'Amato et Catskill, et il meurt juste avant le combat.
Ce qui commence à créer en fait un peu un vide autour de Tyson. Petit à petit, en fait,
la famille disparaît.
La famille disparaît, les hommes de confiance disparaissent, et forcément, dans un milieu,
laisser de la place aux autres.
Voilà, dans un milieu comme celui-ci, laisser de la place aux autres, c'est souvent laisser de la place aux prédateurs.
Voilà. Petite anecdote, ce combat contre Michael Spinks a lieu dans un lieu qui appartient à quelqu'un d'un peu connu, c'est un certain Donald Trump,
président des États-Unis.
À l'époque, pas encore.
Des Amériques.
Oui, Trump est très très proche.
Il avait déjà full pognon.
qui était déjà un mec bien et qui est très proche de Tyson. D'ailleurs, Tyson ne cessera de soutenir
Trump en 2016.
Voilà.
Merci.
Alors, il se passe un événement le 16 août 88. Tyson signe un contrat avec quelqu'un dont on a déjà parlé, le fameux Don King, qui lui met le grappin dessus. Et au cours de l'année 88, donc Tyson est au sommet de sa gloire, une tournée planétaire est prévue et qui doit se solder par un événement, un phénomène, le combat ultra attendu dans le monde de la boxe entre déjà Mike Tyson et Evander Holyfield.
Mais tout ça finalement ne va pas avoir lieu. Alors je sais plus exactement pourquoi ça n'a pas lieu, mais c'est notamment à cause des problèmes de santé
de Tyson,
et peut-être aussi un peu
Tyson avait une douleur à la poitrine en fait, et cette douleur qui était un peu récurrente, faisant qu'il n'était pas à 100%, il ne pouvait pas forcément monter sur le ring contre Holyfield.
Et donc en fait c'est un peu pour Don King va se dire qu'il faut quand même que son boulin combatte et puis rapporte un peu de thunes quand même, parce que ça ne sert pas à grand chose.
Faut vraiment se dire que Mike Tyson, c'est la star absolue du sport US à ce moment-là. C'est vraiment une star interplanétaire. Il vient de se marier avec une actrice connue.
Comment ? Carl Lewis, ça arrive quand
86, pardon.
Je reprends, Sarah.
Et donc, il va lui organiser un combat contre un quasi inconnu qui s'appelle James Buster Douglas, qui est aussi un boxeur.
Douglas,
qui est aussi un boxeur de Don King, qui est censé être un boxeur peu redoutable, donc c'est presque un match d'entraînement qui va avoir lieu au Japon, les États-Unis ne vont pas en vouloir. Ce sera le 11 février 1990.
Quelques mots sur James Buster Douglas. Il est né en 60, le 7 avril, à Columbus, dans l'Ohio.
Il devient pro en 81.
Il accède à une première chance de titre mondial en affrontant Tony Tucker.
Pour
l'IBF.
Que Mike Tyson a battu en 87 pour le titre IBF, justement.
Oui. Alors, le combat est quand même assez serré contre Tony Tucker. Après 9 rounds, un juge donne Tucker en tête d'un point, un autre Douglas en tête d'un point et le troisième ex aequo, donc c'est quand même serré, sauf que le dixième round il va finir presque KO et l'arbitre mettra fin au combat. Donc
il est peu connu, mais il a quand même gagné des matchs. Enfin voilà.
Oui, mais disons qu'il est
voilà, c'est ça.
Il est très irrégulier parce que
il
déjà
il se prépare pas forcément très bien avant les matchs importants et quand c'est pas forcément important, il se prépare très bien. Donc voilà, on ne sait jamais trop.
Et puis il a un poids très oscillant, ce qui est pas bon pour un boxeur qui monte une préparation physique. Il a une comme tu dis en dents de scie.
Il a une hygiène de vie assez déplorable.
C'est pas forcément aussi.
C'est vraiment un sparring partner. C'est vraiment le couteau suisse que Don King peut ressortir.
Penser un peu au lièvre en athlétisme, c'est pas forcément le type sur lequel Don King mise pour faire tourner son écurie. Faut aussi préciser sur Don King que c'est un type qui représente une centaine de boxeurs, plus d'une centaine de boxeurs. C'est une véritable entreprise, c'est le pape de la boxe. Et donc quand il organise des combats, quelque part, il les arrange un petit peu pour faire monter plus ou moins la cote de certains boxeurs. Et Buster, lui, est pas forcément celui sur lequel Don King mise beaucoup d'argent. Quoi.
Alors à tel point, en fait, le rapport est tellement déséquilibré, pour la petite anecdote, il est donné perdant à 42 contre 1, ce qui est énorme. C'est un record absolu en poids lourd. En championnat du monde. Et il n'y a qu'un seul casino, le casino Mirage à Las Vegas, qui accepte de prendre les paris sur ce combat.
Il y a aussi le casino d'Etretat qui a bien voulu.
Et pour dire, c'est même un match qui va être assez peu suivi en fait aux États-Unis. Il y aura peu de téléspectateurs. Ouais. Enfin, voilà, c'est un petit événement.
Les images que nous avons vues pour préparer l'émission, c'est des images HBO, mais bon, après forcément.
Oui, HBO le diffuse, mais les téléspectateurs sont pas trop rendez-vous.
Ils sont pas au rendez-vous. Il y a la NBA en même temps, donc ils sont plus sur la NBA.
Exactement.
Ah oui, je crois que même il y a c'est la NBA, mais c'est un concours de dunk. C'est pas un match.
Il y a aussi l'épisode 3 de la saison 13 d'Arabesque.
Colombo en parallèle.
Non, mais Douglas, en faisant un peu de recherche sur lui, c'est un personnage assez touchant. C'est vraiment en fait, il va se faire repérer par Don King parce que Don King doit organiser un jour un combat à Atlantic City contre je sais plus qui, j'ai oublié. Et il tombe sur ce boxeur qui accepte 3 jours avant de faire de dépanner un petit peu. Et c'est aussi comme ça que Don King va le récupérer. C'est un mec qui a pendant très longtemps a boxé pour 2 000 $. On est loin des 50 millions de Tyson. Il posait de la moquette à ses fins de mois pour gagner sa vie.
C'est un schéma très classique dans la boxe. Hein, le type tiré au sort, on pense que ça a toujours un lien avec un scénario assez célèbre, mais en réalité c'est assez fréquent le catalogue de boxe avec ce type qui fait ça à côté et qui vient dépanner sur des quelques combats. Bah là ça tombe sur Buster.
Pour info, le combat a tellement peu d'intérêt sportif puisque c'est très déséquilibré que les Américains n'en veulent pas.
Oui, c'est au Japon que ça va se dérouler.
King va être obligé de le délocaliser au Japon, à Tokyo.
Peut-être pour poser un peu l'image avant le combat, donc on a vraiment Mike Tyson qui est toujours un peu au sommet de sa gloire, même si à ce moment-là, je crois que ça fait quasiment 200 jours, justement à cause de ses problèmes physiques, qu'il n'a pas combattu. Mais il est censé quand même être au top. Et en face, donc Douglas, qui n'a pas l'image de quelqu'un de très sérieux. En plus, on aurait pu croire que ça allait le desservir, mais ça ne va pas le desservir. Il a deux moments difficiles dans sa vie peu avant le match. Sa femme le quitte et sa maman, qui n'a que 46 ans, donc qui est une dame assez jeune, va mourir d'une crise cardiaque. Oui. Et en fait, contrairement à ce que ça on pourrait croire, ça va lui donner en fait la niaque pour réussir ce combat. Et il va très très bien le préparer. Contrairement à Tyson qui va être plus léger,
il va perdre ses bourrelets, il va s'entraîner à donf. Sa maman, c'est la seule qui croyait en lui. C'est la seule qui disait il va gagner, vous allez voir. Et elle meurt.
Lula Pearl qui meurt effectivement à 46 ans d'une crise cardiaque, 23 jours avant le combat. Ouais. Lui, il va n'avoir qu'un objectif à partir de ce moment-là, c'est rendre hommage à sa mère. En faisant
le plus beau match possible.
En lui donnant raison, disant. Je vais battre Tyson. En conférence de presse, Douglas, qui va affirmer « J'ai regardé Tyson, je n'ai vu qu'un petit homme. Tyson a déjà été battu en amateur et ce 10 février, vous reverrez ça. »
Ouais, okay. Il annonce la couleur.
Personne n'y croit. C'est tout le monde dit, il est mignon.
Oui, mais on dit que ça se joue à la psychologie. Et donc, je pense que c'est un moyen aussi de jouer ce jeu de la psychologie, de se dire je vais gagner.
Alors, il faut savoir que Tyson, dans ses 5 derniers combats, en moyenne, ça se joue en 2,6 rounds.
Et il gagne.
Et il gagne, évidemment, puisqu'il n'a aucune défaite. Il est invaincu à ce moment-là. Ouais. Tout le monde s'attend à ce que le combat prenne fin à la fin du premier round. Il a déjà mis 17 adversaires KO à la fin du premier round, ce qui est quand même énorme. Et il y a un petit mec un peu connu dans la salle. Il s'appelle Evander Holyfield. Il est présent, c'est pas tellement pour assister au match parce qu'il n'y a pas beaucoup de suspense comme j'ai dit. C'est parce qu'il s'apprête à donner une conférence de presse pour annoncer le combat prochain entre lui et Tyson.
Et Tyson, ouais.
On verra effectivement que ça se passera pas comme ça.
On le voit dans les images assis de façon assez stoïque.
Et donc
nous sommes
le 10 février 1990, il est midi heure japonaise et le combat peut commencer.
His record 29 wins, 4 defeats, 1 loss, 1 draw with 19 wins by way of knockout. He's ranked number 3 by the WBC, number 4 contender in the WBA. Please welcome the challenger, James Buster Douglas. The defending champion on my left, really needing no introduction the world over. He's ready to fight out of the red corner and attired in black trunks. Hailing from Catskill, New York, he weighed in at a ready 220.5 pounds. His outstanding record, 37 wins, no defeats, with 33 big wins by way of knockout. He's making his 10th defense of the heavyweight crown, introducing the undefeated, undisputed heavyweight champion of the world, the one and only Iron Mike Tyson!
Buster Douglas is a conventional fighter who likes to work behind a stiff left jab.
Alors le combat commence entre Tyson et Douglas, et ce qui frappe d'entrée les spectateurs à Tokyo, c'est que Douglas ne recule pas, il n'a pas peur et il finit le premier round de manière plutôt honorable.
Ouais.
Oui, on est même étonné de voir en fait Tyson un peu mou finalement, qui fait plus en attaque, qui n'a plus ses enchaînements destructeurs, et en défense, pareil, un peu plus lent que d'habitude.
Il bouge pas, il est planté, ouais. Il bouge pas, il a plus cette dynamique de vraiment se protéger et ensuite d'asséner des coups.
Ouais, ce fameux Tyson qui est en permanence en mouvement, en défense, en attaque, là on est sur quelqu'un d'autre en fait. Ouais.
Ouais. Le round 2 se passe à peu près de la même façon et Douglas va même se permettre quelques attaques assez tranchantes puisqu'il lui assène un petit crochet du droit voilà, un enchaînement qui fait bouche.
Tu le fais super bien, ça.
Tu m'as fait peur.
C'était agressif.
Pendant les rounds 3 et 4, Tyson est plus agressif, mais tout ça reste à peu près équilibré.
Ouais, puis déjà on se dit, mais attends, il a déjà tenu 3 rounds. Attends, il a déjà tenu 4 rounds.
Ouais, ouais, c'est incroyable.
Alors je l'ai pas dit pour le premier round, mais j'ai relevé en fait dans la vidéo, souvent sur les rounds d'après, ils mettent les stats des coups qui sont donnés, les coups qui sont touchés.
Tout à fait.
Et ce qui est assez impressionnant, c'est que en général, sur tout le match, on va voir que James Douglas met le double des coups que met Tyson, et il y en a à peu près, plus du double qui porte ses fruits. Et là, par exemple, pour le round 3, Mike Tyson, donc dans tous les coups comptabilisés, il en met 73 et il en touche 28. Quand Douglas en met 152 et il touche 73 fois.
Ouais, c'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est vraiment qu'il ne recule jamais face à Tyson.
Et qui gagne beaucoup de temps, Tyson. Il le prend souvent dans ses bras. Et en fait, c'est une technique pour se reposer et gagner du temps pendant le round. Et parce que moi, je me demandais pourquoi il se faisait des câlins. Ça n'a aucun sens.
Normalement, c'est interdit, en fait. Et d'ailleurs, les arbitres
les
séparent à chaque fois. Mais on se repose.
Il peut même y avoir des pénalités effectivement.
Oui, ils le font très souvent.
L'un des boxeurs abuse de ça.
Enfin, Tyson l'a jamais fait. Et là, il le fait tout le temps.
C'est
très étrange.
Et en plus, ça permet de se reposer. Et puis, parce qu'en fait, t'es tellement près de l'autre que l'autre peut plus te toucher, en fait.
Parce qu'il maîtrise un petit peu les bras. Du coup, il n'y a pas vraiment de possibilité de remettre un coup derrière.
Et Douglas, c'est d'une sérénité incroyable. Ouais, il est très sûr de lui.
Moi, c'est ça qui m'a le plus frappé dans le regard de ce match, c'est la sérénité, le calme de Douglas, qui à aucun moment ne tressaille et et ne fait autre chose que juste se battre. Et,
et moi, c'est là où, au début du podcast, je disais que je faisais des pauses dans le match parce que comme je voulais le regarder du point de vue de Mike Tyson, j'étais un petit peu déçue de voir cette masse plantée qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand-chose. Et ensuite, quand je comparais avec ce qu'il faisait 5 ans, 6 ans avant...
Ouais. Est-ce que tu criais devant ton ordinateur « Allez, bouge, Mike, mais bouge !»
Je pleurais un petit peu et en fait, je criais quand j'avais regardé 8 secondes un KO. Tu te dis « Bon, c'est bon, et peut-être qu'il va reprendre dans le round d'après. » Et en fait, ça venait pas. Ça
encore moins
pas.
Puisque le round...
La machine est grippée, ouais.
Le round 5, encore pire, Douglas prend carrément le dessus sur Tyson. Mm. Et il met Tyson en difficulté, notamment avec ses coups droits, ses directs et ses crochets. Tyson n'arrive pas du tout à les esquiver ni à les contrer.
Mm. Et, il va se prendre d'ailleurs Tyson plusieurs coups au visage et en fait ça va être assez impressionnant pour le public parce que le public n'a pas l'habitude de voir Tyson blessé et là on voit sur les images et moi je trouve ça atroce.
Là c'est un tournant du match
il va se prendre des coups dans l'œil et il donc son œil poché, va se fermer au fur et à mesure et à ne devenir plus qu'une fente à la fin et pour montrer le niveau d'assurance en fait de Tyson mais aussi de son équipe finalement qui est aussi coupable c'est qu'ils sont tellement pas préparés à ça qu'ils n'ont pas en fait la trousse de soins nécessaire pour soigner son œil correctement.
Ce qui s'est passé c'est qu'après cet handicap qui normalement est soigné dans le coin pour un boxeur avec effectivement comme tu dis Sarah avec la trousse de soins nécessaire
avec une poche de glace en fait
ce qui n'a pas été prévu c'est-à-dire une plaque de fer, une poche de glace, ce qu'il faut pour pouvoir percer peut-être même ne serait-ce que une poche de sang qui commence à se créer pour pouvoir un peu soulager et libérer le champ de vision. Là, c'était pas prévu, donc ils ont mis sur le visage en fait un peu d'eau et une poche d'eau. Donc
du robinet
et du mercurochrome.
Du coup, c'est un handicap qui va peser lourd. C'est un handicap qui va peser lourd dans le match.
Ouais,
et forcément peut-être même accélérer.
Ils ont fait un bisou. C'est bon, ça va aller. Bisou magique.
Continue, bisou magique.
Alors il faut savoir que voilà, c'est comme tu disais Sarah, c'est extrêmement choquant pour le public qui a pas l'habitude de voir Tyson blessé. Et il faut savoir quand même petit détail qui aura son importance, son entraîneur historique Kevin Rooney a été écarté par Don King.
Il a
fait le ménage et en fait effectivement l'équipe qui s'est déplacée avec lui à Tokyo est assez inexpérimentée.
C'est surtout que à partir de ce combat là il n'y a plus aucune personne de la famille Cus D'Amato autour de lui.
Alors il y a un round qui va être très important, c'est le round 8. Là ça s'anime et surtout ce qui est frappant c'est que là pour le coup on s'attend à ce que Douglas décline à un moment donné. On se dit bon là c'est quand même déjà impressionnant, c'est déjà un exploit, mais à un moment donné forcément il va lever le pied, il va se faire surprendre. Sauf que non, Douglas domine complètement Tyson dans ce round 8. Il va même l'acculer dans les cordes, il va l'attaquer et pris par son élan, il va enchaîner les coups, mais en fait il va baisser sa garde et Tyson par réflexe de survie,
quasiment,
on voit sur les images, lui assène un uppercut ultra violent en pleine mâchoire et là
du droit cette fois-ci, pas du gauche.
Et là Douglas,
c'est ce qui a peut-être sauvé Douglas.
Douglas s'effondre.
Et on pense peut-être que ça y est, c'est là.
En
fait, il faut savoir que l'arbitre est lui-même surpris par le fait que par l'effondrement de Douglas et le décompte se fait un peu tard
avec 4 secondes de retard selon après
entre
les
2 et 4 secondes on ne sait pas trop un peu brouillard
en tout et pour tout l'arbitre compte a l'air de compter, on a calculé avec Olivier 14 secondes au lieu des 10 réglementaires
13,91 mon chronomètre.
Il y aura une polémique par rapport à ça, on va revenir un petit peu dessus,
dans laquelle Don King va essayer de s'engouffrer
évidemment.
Mais Douglas se relève
avant la fin du décompte,
c'est vachement mieux et en fait il a une chance là-dedans, c'est qu'en fait on est à 5 secondes de la fin du round et donc en fait il va pouvoir juste après reprendre un peu ses esprits et revenir un peu reposé. Peut-être que les choses se seraient passées autrement s'il restait une minute, deux minutes à tenir dans ce round-là.
Oui, parce que Tyson à ce moment-là du coup a pris le dessus, il a contre-attaqué et clairement son objectif, sa stratégie, ça va être d'attaquer d'Ossisek juste après la reprise, juste après que Douglas se soit relevé pour le mettre KO et puis terminer, on n'en parle plus quoi. Là à ce moment-là le public se dit ah ça y est,
c'est fini.
Ça y est. Il a été bon, Douglas, ça va, il a joué, il a joué son dur.
Il a fait le match de sa vie.
Il a joué son dur là devant Tyson, mais là c'est fini maintenant. Sauf que le round 9 ne va pas donner raison à Tyson, puisque même si Tyson commence fort, puisqu'il veut attaquer directement après le gong, il se fait encore surprendre et
il se retrouve dans les cordes,
il se refait enchaîner.
En fait, Douglas n'a pas du tout baissé de niveau. Au contraire, limite, il a repris la rage après. après l'uppercut de Tyson.
Il se retrouve dans les cordes. Douglas le travaille un peu dans les flancs, hein, donc dans le ventre, quand il a sa garde, et il lui envoie un crochet du gauche et un crochet du droit. Donc c'est toujours
un peu comme s'il souhaitait ne pas laisser sa chance, parce qu'il sentait peut-être le fait de pouvoir réaliser l'exploit. Et ce stress du 8e round, dans lequel en fait où il s'aperçoit qu'il risque de perdre finalement avec tout ce qu'il a créé, il se dit que c'est maintenant ou jamais. Donc le 9e round était assez fatal pour Mike Tyson.
Douglas le touche 37 fois quand Mike Tyson peut riposter 12 fois.
Ouais. Enfin, donc c'est ridicule.
C'est quand même pas terrible, terrible. Quoi.
C'est mais
pas terrible.
Vraiment, à chaque fois, c'est plus du double au moins. Et c'est vraiment impressionnant.
Les statistiques sont...
Mais on peut voir que les stats parlent beaucoup, mais que le match peut se retourner d'une seconde à l'autre.
Oui, parce que ça reste un grand puncher.
Parce que ça reste Mike Tyson.
Ouais. Voilà. Et une ouverture, une brèche et un relâchement permet en fait de retourner un match. Donc effectivement...
Round 10. Alors, comme dans le round 9, Tyson attaque dur d'entrée, mais au bout d'un moment, Douglas reprend le dessus. Il le travaille un petit peu avec quelques directs du droit. Et soudain, down goes Tyson.
That Tyson is virtually a one-eyed fighter at this point.
A desperate one-eyed fighter. Brawling willingly just to try to get in the shot that will finish things in.
Oh, the uppercut.
What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson.
One, two, three, four, five, six, seven, eight. It's over.
It's over. Mike Tyson has been knocked out.
Unbelievable. This makes Cinderella look like a sad story. What Buster Douglas has done here tonight.
Let's go ahead and call it the biggest upset in the history of heavyweight championship fights. Say it now, gentlemen. James Buster Douglas, undisputed heavyweight champion of the world.
Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world. Three bodies lying there. Like little
c'était Bob Dylan. Évidemment, vous êtes bien sûr FIP.
Bonsoir.
Alors, Douglas attaque effectivement dans le 10e round. Il travaille, comme je disais, avec quelques directs du gros et du col. Un enchaînement ultra violent. Crochet du gauche, Tyson s'effondre. Tyson est KO, chose totalement inédite.
Il faut savoir qu'il lui aura quand même 9 coups d'affilée, ouais, qui touche Mikey. Donc 9 coups d'affilée qui arrivent droit au but et l'impensable se réalise. Mike Tyson s'écroule. Mike Tyson est à terre.
À côté de ça, Cendrillon ressemble à une histoire triste.
C'est ce que dit l'un des commentateurs. On l'a entendu dans l'extrait que j'ai passé.
Sugar Ray Leonard.
Ouais. Et Larry Marchand, je ne sais pas trop comment on le dit, va interviewer James Douglas. Il lui demande « Pouvez-vous y croire ?» Lui répond
« Oui.
Pourquoi est-ce arrivé ? Parce que j'ai gagné. Pourquoi avez-vous gagné ce combat ? Pour ma mère, Dieu bénisse son cœur. »
Et il pleure.
C'est beau.
Et il s'effondre en larmes.
Ouais.
Voilà. C'est
le belle histoire.
C'est le combat de sa vie.
Don King, qui est un sacré petit magouilleur, va tenter en fait de faire annuler le résultat.
Ouais.
Parce que donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Tyson va envoyer Douglas à terre
dans le 8e round,
dans le 8e round, il estime que l'arbitre a compté trop doucement ou a commencé trop tard à compter,
ouais,
et que donc il y a 14 secondes.
Oh.
Alors pour Don King, soutenu par le président.
Sortez-moi de là, s'il vous plaît.
Alors, il est d'abord soutenu par les présidents du WBC et WBA, mais qui vont finalement en fait assez rapidement le lâcher et dire non. En fait,
il y a une chose qu'à mon avis,
Tyson a perdu.
Il y a une chose qu'à mon avis qui est déterminante mine de rien dans cette décision, c'est quand on regarde le combat. Si Tyson n'était pas tombé au 10e round et que c'était allé jusqu'au 12e round, alors on ne sait pas ce qui se serait passé dans les deux derniers rounds.
Non, mais il aurait perdu. Au point,
il aurait perdu.
Oui,
c'est sûr, il était dominé dans ce combat de A à Z.
Ce que tu nous disais, Chloé, sur le nombre de statistiques en faveur de Douglas, on a clairement, il y a clairement pas match. Quoi.
Ah bah non, mais il n'y a même pas photo. Le 13 février, donc effectivement, la WBC et la WBA reconnaissent la victoire de Douglas.
Et donc,
il n'y a que l'IBF qui.
Ouais, mais va être obligé de suivre assez rapidement pour ne pas être ridicule.
Cette victoire sera nommée surprise de l'année par Ring Magazine.
Ça, c'est une belle anecdote.
Super anecdote. Le nouveau champion devient alors le symbole que tout est possible si on peut se surpasser. La presse titra même dans les journaux « Rocky lives ». Rocky est vivant, effectivement, ça rappelle un petit peu l'histoire de Rocky Balboa, donc qui fait référence au film. Et un certain Clint Eastwood s'intéresse au phénomène.
Ça, dès qu'il peut,
peut
grappiller un peu, lui.
Mais en même temps...
Il va faire un film sur la boxe, mais pas du tout par rapport à ça.
Ceci dit, moi, je suis surpris qu'Hollywood ne soit jamais emparé
de cette histoire.
De cette histoire, parce que c'est juste
incroyable. Elle a un potentiel incroyable.
Elle a un potentiel dingue. On va essayer d'analyser les raisons de cette défaite, puisqu'elles sont... Oui, tu
Alors, je suis désolée, je voulais dire un mini truc parenthèse avant d'analyser les raisons de la défaite. C'est que cette victoire, finalement, pour Douglas, ça va être un succès d'assez courte durée, puisque derrière, les matchs suivants qu'il va faire, il va les perdre, il va assez vite raccrocher ses gants. Il va sombrer dans la dépression, il va devenir complètement obèse, plus de 200 kilos, il va faire même un coma diabétique.
Ouais.
Donc le conte de fées est de courte durée quand même pour Douglas, c'est triste. Mais
ouais, c'est dingue. En fait,
c'est ce combat, c'est un peu ensuite la déchéance des deux, du vainqueur et du vaincu.
Ouais.
Une spirale derrière qui s'enchaîne assez vite.
C'est donc un coup d'éclat dans la carrière de Douglas, en fait. Alors, on analyse les raisons d'une défaite. Alors, évidemment, je pense que la raison numéro 1, on l'a déjà évoqué, certainement, c'est la mort de la mère de Douglas, qui a été un dopant extraordinaire.
Un leitmotiv incroyable. Ouais.
Mais des raisons sont à aller chercher du côté de Mike Tyson, qui est déjà sur une pente déclinante, en fait.
Oui. Alors, on a déjà parlé de 2-3 trucs. On a déjà dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas combattu. On a déjà dit qu'il s'était moins entraîné.
On va expliquer
pourquoi est-ce que, justement, il y a un peu ce lâcher-prise par rapport à ces matchs.
Il y a un entourage de confiance qui commence à se clairsemer. Et puis,
il commence à avoir des problèmes dans sa vie privée.
Ouais.
Sa vie privée est de plus en plus étalée à la une des journaux, souvent pour des faits divers assez regrettables, comme des petites bastons ou des accidents accident de bagnole. Et en février 88, Tyson fait la une des magazines People en épousant l'actrice Robin Givens. On la connaît assez peu en France.
Elle est connue aux États-Unis parce qu'elle joue dans des séries télévisées. Oui. Elle est,
on l'a vu comme ici aussi en France. Bah, c'est des,
ah bon,
c'est
comme américain. Ouais. Ouais. Oui, dans Le Prince de Bel-Air, par exemple.
Elle joue dans Le Prince de Bel-Air.
Ouais, elle fait une apparition dans Le Prince de Bel-Air.
Elle joue dans une série qui est assez connue aux États-Unis, mais je ne la connais absolument pas, donc je ne vous dirai pas le nom. Et puis
sois prof et tais-toi.
Si, c'est passé en France. Ouais.
C'est passé en France,
ouais, ouais. C'est un conseil. Et donc, ils se marient en 88. Robin Givens qui...
C'est un mariage express. Hein. Ils viennent de se rencontrer, ils sont très jeunes.
Oui. Enfin, oui. Alors, ils se marient parce que...
Ouais, en sous...
Ce qui se passe, c'est que Robin, cette chère Robin, lui dit « Marions-nous, je suis enceinte de toi. »
De 3 mois.
De 3 mois, marions-nous, Mikey.
Bon, faut savoir que Robin est un peu drivé par sa maman. Qui,
oui, c'est un peu son coach à elle. Hein.
C'est un peu son coach à elle. C'est un peu son Don King à elle. Et qui lui... Ouais, là, c'est ça.
Son surnom, oui.
Voilà, le surnom.
C'est pas semblant de m'écouter alors que tu m'écoutes pas.
Non, mais répète parce que je pense qu'on t'a pas forcément entendu.
Oui, on l'appelle la chercheuse d'or, sa mère. Donc on sent que ça vient pas de nulle part, ce mariage.
Une sorte de croqueuse de diamants, en fait, et qui exploite sa fille pour essayer d'obtenir le magot. Et effectivement, flaire le bon filon avec Mike Tyson. Et...
Mike Tyson, qui est, elle sent en fait que c'est une personne facilement manipulable, vu qu'elle est terriblement manipulatrice, ça tombe bien. C'est elle qui va un petit peu fomenter cette ruse, hein, comme quoi sa fille est enceinte. C'est même pas Robin Givens qui va dire directement à Mike Tyson, je suis enceinte, marions-nous. C'est elle qui va en parler à Jim Jacobs, qui est Bill Keaton, pardon, qui est son manager de l'époque.
Non, je crois que c'est Jim Jacobs.
Ah, c'est Jim Jacobs qui va plus ou moins lui répéter. Enfin bref, c'est une ruse sordide. Ils se marient, sauf qu'elle lui dit, bah non, je suis pas enceinte.
Mais
quoi,
ils sont mariés.
Enceinte.
Et ça va pas s'arrêter là après, parce que même une fois qu'ils sont mariés, pour essayer d'avoir en fait le grappin, et puis on va voir qu'en fait la maman et la fille vont aussi d'une certaine manière s'opposer à Don King.
Oui. Ça pour le coup c'était plutôt une bonne chose.
Ça aurait pu être une bonne chose justement. Elles auraient pu être plutôt une protection contre Don King. Oui. Mais en fait des deux côtés on a plutôt pas de très bonnes intentions, on a l'impression.
Tout à fait.
Et donc, elles vont aller quand même jusqu'à convaincre Tyson qu'il est maniaco-dépressif.
Oui.
En offrant les services d'un psy qui ne va quasiment jamais voir Tyson. Et pareil, dans Tyson, il y a un moment assez important où on va voir à quel point Tyson en fait, est un peu sous leur coupe. Quoi.
Il est en sous-emprise.
Elle donne une interview à la télévision américaine. Écoutez, c'est juste...
Et juste le dit, pour que les gens sachent avant de le voir, Tyson est à côté d'elle quand elle parle.
Oui, c'est absolument...
Oui, ils sont présents tous les deux. Ouais.
C'est absolument consternant, écoutez.
Michael est un maniaco-dépressif. C'est comme ça. C'est l'enfer. C'est pire que tout. Pour la première fois, je comprends les femmes violées. Quand il ne se contrôle plus, c'est terrifiant, pour moi, ou pour ma mère. J'ignore ce que Mike Tyson deviendrait sans ma mère, ce qu'on deviendrait. C'est grâce à elle si on est encore ensemble.
Alors effectivement, comme tu disais, Tyson est à côté, il a l'air lobotomisé.
Il dit rien,
il bouge pas, il a le regard dans le vide. Il faut savoir qu'à l'époque, il était sous traitement, il prenait du lithium, c'est ce que le psy en fait, de Madame Givens lui prescrivait.
Un traitement à base de lithium, en France, le pharmacien peut t'en prescrire, hein, c'est pas forcément quelque chose, mais si le traitement est à base de lithium, on sait pas en fait si c'est pas des barbituriques, enfin, ce genre de choses qui sont hyper puissants.
T'en as pris là, non?
Non. J'ai le regard vide.
Merci professeur Chabrol.
Alors son manager en fait lui va consulter un psy qui va le voir et qui va dire mais en fait non, il est pas du tout maniaco-dépressif. Peut-être qu'il va pas très bien, mais bon, je pourrais jusque là.
Après il est possible qu'il ait été quand même un peu violent.
Oui, il est
pas
connu
forcément
pour ça,
physiquement seulement, mais verbalement. Enfin, je pense que globalement c'était un mariage pas très serein.
Avec Robin Givens que si il a reconnu avoir été violent avec elle et qu'il l'a frappée et qu'il a dit que c'était le meilleur coup qu'il avait donné de toute sa vie.
Ah oui.
C'est quand même admis de sa part. Oui. Il me semble que c'est avec Robin Givens.
D'accord. Il y a un tournant en fait dans la carrière de.
C'est Arnaud. Arnaud Tournant, c'est une blague de merde.
Je vais la couper.
Je l'ai pas.
Il y a un gros tournant dans la carrière de Tyson. En fait, c'est à partir du moment où il commence à rapporter beaucoup d'argent et qu'en fait, il se fait entourer tout simplement de requins. On a parlé de Robin Givens, avec qui il divorce en octobre 89, seulement 4 mois.
Donc avant ce fameux match.
Avant le fameux combat contre Douglas. Mais il y a un autre gros requin qui tourne autour de lui et qu'on veut un peu à son fric. On en a déjà parlé, c'est monsieur Don King.
Oui.
C'est qui ce monsieur?
On l'a dit, hein, c'est un promoteur de boxe professionnel qui a organisé quand même près de 250 championnats du monde. Donc c'est pas n'importe qui dans le monde de la boxe. Il a amassé des centaines de millions de dollars. Et je pense qu'on peut peut-être... revenir en quelques mots sur son parcours de vie pour montrer
qu'il a un beau CV.
C'est un personnage pas très
CV,
sympathique.
Pas
mal, ouais.
Alors à 18 ans, il s'est déjà fait renvoyer de l'université parce qu'il faisait du bookmaking. Donc voilà, ça vous place un homme.
Oui.
En 54, il a une altercation avec des gens qui essayent de l'escroquer. Il décide d'en tuer un. Après tout, c'est quelque chose qui se fait.
Oui.
Pour un truc genre $600, non?
Non, ça c'est pas.
Ah, c'est
après.
Un autre.
Non, attends. Parce que là, il le tue, il légitime défense, donc il ressort libre du tribunal.
Oui, hein, c'est en fait, c'est ça. Ouais.
Voilà, bon.
Il se protège.
Et en 66, donc une dizaine d'années après, à Cleveland, il va battre à mort un de ses débiteurs pour $600. Il va faire 3 ans de prison.
On peut donner des chiffres. On a donné des chiffres sur les victoires et les KO de Mike Tyson.
Oui.
Don King, son chiffre, c'est 30 arrestations entre 51 et 66.
C'est pas mal,
ouais. Ce qui est bien.
C'est un mérité presque une ceinture. Ouais.
C'est un mec qui offre des voyages, tout frais payé aux différents juges.
Quand il la quitte, pour
les remercier. Ça,
alors,
se fait complètement.
Ça, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Quand il sort de prison, il a quand même pas beaucoup de pognon. Et pour rechercher à en gagner très rapidement, il décide de se lancer dans la boxe coup du sort. Il croise le chemin d'un boxeur un peu célèbre qui s'appelle Mohamed Ali.
Ouais.
Et il commence à organiser quelques exhibitions avec lui. Donc quand même,
cette histoire est géniale.
Une exhibition pour réunir des fonds pour sauver un hôpital. C'est simple, il va tout garder pour lui.
Dizaines de milliers de dollars.
Voilà, il part avec la caisse. Alors c'est un petit... on sent parce qu'une dizaine de milliers de dollars, on se dit mais tout ça pour ça. Et finalement, en fait, tu te dis mais en fait c'est une petite frappe. Et effectivement, les comportements d'une petite frappe.
C'est là aussi, tu vois, par rapport à ce que m'inspire la boxe, où c'est quand même, en tout cas dans la boxe professionnelle de très haut niveau, bien sûr pas un petit niveau, où t'as un truc de mafia qui tourne autour de tous ces grands matchs.
Je comprends clairement tes réticences et ce que ça laisse apparaître. Forcément, c'est pas forcément le milieu est le plus transparent.
Tu me diras, il y a d'autres sports
quasiment tous.
Ça se voit moins.
Don King obtient la consécration mondiale, puisque figurez-vous que c'est lui qui organise The Rumble in the Jungle, le fameux combat entre Mohamed Ali et George Foreman,
au Zaïre,
qui a lieu au Zaïre, sur un coup de bluff. C'est incroyable cette histoire. Qui raconte?
Il promet en fait aux deux boxeurs une coquette somme,
de 5 millions de dollars
chacun.
Non, au gagnant.
Au gagnant, d'accord, ok. Et en fait, il n'a pas un rond pour organiser le combat, donc il se dirige vers... Un de ses bons amis, le président Mobutu.
Ouais, le fils de Bobu Won.
Voilà. L'empereur à l'époque, un peu le roi du Zaïre, on va dire, hein, parce que il s'était décrété.
C'était un président, non?
Oui, c'était un président, mais je veux dire, il avait un peu une notion du pouvoir complète, on va dire. Et forcément, un combat qui est devenu un combat de légende.
Peut-être
puisque...
qu'on pourra en faire un EPO un jour.
C'est peut-être aujourd'hui, il est connu quand même comme le combat du siècle.
C'est le combat du siècle, ouais. Effectivement. Et un excellent documentaire qui consacre cette histoire. Et Don King est au centre de cette partie. Et il fait,
c'est lui qui organise, quoi.
Il organise
Et il gagne son pari, en fait. Hein,
c'est un phénomène, ce combat. Exactement. Ça reste peut-être le plus grand combat de Mohamed Ali, à une époque où il n'est pas favori.
Et de l'histoire de la boxe.
Et de l'histoire de la boxe. Et il va chercher, forcément, à partir du moment où Mike Tyson rapporte beaucoup d'argent, après la mort
de Jim Jacobs.
On en a parlé de Jim Jacobs. Qui était comme un grand frère pour Tyson, hein, il faut quand même le dire.
Oui.
Il va
évincer l'autre promoteur, Bill Keaton, puisque c'est deux en fait. Ils avaient été Jim Jacobs et Bill Keaton, il n'avait un qu'organisé plus la presse et l'autre les combats. Il va évincer Bill Keaton, Kevin Rooney, l'entraîneur emblématique et celui qui avait pris la place de Cus D'Amato, se fait évincer également.
Ouais, c'est
et
lourd,
King à la main mise. sur Tyson.
Ouais, tu te demandes comment il est tenu aussi longtemps quand même dans ce milieu, vu toutes les magouilles, mais il va quand même être poursuivi en justice par ses propres boxeurs pour fraude fiscale. Mmh. Enfin, ouais. Voilà.
Mais il a de l'argent.
Et en fait, sportivement, à l'époque, à partir du moment où Don King met le grappin sur Tyson, Tyson va décliner en fait. Mmh. Il va n'être plus. Alors on le disait, c'est un. Quand même, malgré le fait qu'il soit connu pour être un excellent puncher, c'est un boxeur complet, hein, qui a une très bonne défense, qui bouge beaucoup, qui est quand même élégant, même s'il est très puissant, très agressif. Et là, il va plus que puncher, finalement.
Oui.
Il est complètement perdu, Tyson. Il se passe que... En fait, c'est ce qu'on disait sur Cus D'Amato, qui, psychologiquement, pour lui, c'était le plus important. Là, Mike Tyson est tout seul.
Ouais.
Il n'a plus psychologiquement suivi. Oui. Il couche avec 15 femmes par jour. Il couche avec sa ceinture, avec ses trois ceintures.
Il ne doit pas absorber que des vitamines.
À mon avis, il ne fait pas que de la vitamine B. Et donc, il est complètement perdu. Il le dit lui-même. Il ne comprend pas. En plus,
c'est la déchéance.
Voilà.
On connaît la suite, puisque en fait, ça va être une longue descente aux enfers. Après le match contre Douglas, Mike Tyson est mis en cause par Desiree Washington, une jeune participante de 18 ans au concours de Miss Black America, qu'il accuse de l'avoir violée. Mike Tyson sera condamné à 6 ans de prison et il sortira de prison le 25 mars 1995. Petit mot quand même sur James Buster Douglas après ce combat, qui devient une star l'espace d'un moment quand même. Et le 25 octobre 1990, au casino, au Mirage, le casino qui avait ouvert ses paris d'ailleurs, lui propose 25 millions de dollars, c'est encore plus que ce que gagnait Tyson, pour affronter Evander Holyfield, pour mettre en jeu sa ceinture. Et au troisième round, il se fait défoncer.
Donc, comme on a dit tout à l'heure,
c'est
la fin. Et juste peut-être pour faire très bref quand même sur Tyson, quand même dire que Tyson, quand il va sortir de prison, il va faire 3 ans à peu près en prison, ça va être un peu écourté pour bonne conduite sa peine. Il va quand même réussir à avoir un petit sursaut, à regagner le championnat WA et WO, je sais plus si c'est WO ou WC. WC.
Il va gagner les WC. Il va gagner le championnat
WC. Je suis fatiguée, mais ça va être finalement qu'un sursaut et je pense que c'est quand même important pour conclure de vraiment montrer ce.
C'est la ceinture, c'est une cuvette de chien.
Non, mais je crois qu'il fait partie des 3 boxeurs à avoir récupéré son titre après l'avoir perdu.
Oui, c'est possible, il y en a assez peu. Et c'est vraiment, enfin, et en voyant le documentaire, on le voit bien en fait, Tyson est tout le temps rattrapé par ses démons et il va tout le temps replonger dans la drogue, dans le sexe, dans les magouilles,
dans
et
l'alcool aussi.
Dans l'alcool. Et en fait, il n'arrive jamais à sortir de ça derrière.
Alors, il va finir quand même par se séparer de ce poids qu'était Don King et qu'il escroquait. Il faut savoir que Don King, il est en procès avec beaucoup de ses boxeurs qui l'accusent d'arnaque. En 1998, Mike Tyson donne une interview en France à Michel Denisot, à Canal Plus. Écoutez ce qu'il dit sur Don King, c'est gentil.
Il y a quand même beaucoup de changements autour de vous, notamment le départ de Don King qui a tenu un rôle important à vos côtés. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous ne travaillez plus avec lui, vous lui réclamez 100 millions de dollars. C'est définitivement terminé avec Don King. Vous pensez qu'il vous a fait plus de mal que de bien?
Well, Don King was a piece of shit. This is true.
Alors, je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. Don King est un monsieur méchant.
Un mec pas gentil.
Voilà, exactement. Voilà ce qu'on avait à dire globalement sur Mike Tyson et ce combat légendaire contre Douglas. C'est l'heure maintenant du contrôle anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Ah, ce jingle.
Toujours un plaisir de passer après.
Qui se colle au contrôle anti-doping?
Eh bien, je vais le faire, Mickaël.
Oh, prends la petite éprouvette, Sarah.
J'y vais, j'en reviens. J'ai bu pas mal de bière, donc ça devrait aller vite. Ça va mal. Donc, je vais vous parler d'un autre match qui va mettre face à face un très grand champion avec quelqu'un, un boxeur de seconde zone, un presque inconnu. Je vais vous parler donc de Chuck Wepner, qui est un boxeur poids lourd américain, qui est né le 26 février 1939 à New York. C'est un boxeur plutôt de seconde catégorie. À la vie, il est représentant en spiritueux, mais j'ai trouvé ça assez amusant. Mais il fait de nombreux combats en salle. Les gens qui connaissent le connaissent un peu, aiment bien parce qu'il fait un peu le show. C'est quelqu'un qu'on surnomme le seigneur mais pas Seigneur S-A-I. G-N-E-U-R comme le sang, seigneur de Bayonne. Ah oui. Alors c'est pas la ville de Bayonne, Bayonne c'est la ville où il vit. J'ai bien aimé son nom qui en français peut vraiment prêter à confusion. À l'issue de sa carrière quand même, il va totaliser 328 points de suture et un nez cassé 10 fois. Ah oui. Donc c'est quand même voilà, un peu inviolent on va dire.
Pas mal.
Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le 24 mars 1975, une grande proposition, combattre contre Mohamed Ali. Et vous savez qui lui propose ce match?
Don King.
Comme quoi, c'est incroyable. En fait, il revient magnifique tout le temps.
Petite parenthèse, Don King est encore la personne la plus influente dans la boxe aujourd'hui. Hein.
Ah ouais.
Ouais.
Il me semble. Hein.
C'est ouf.
Ouais, il est encore là.
Lui et Booba. Mais oui.
Et ce combat, bien sûr, pour tout le monde, ça devrait être une formalité pour Mohamed Ali face à un boxeur quasi inconnu du public. C'est un peu le tocard idéal pour maintenir en forme le champion qui est au top. Il vient juste donc de battre George Foreman au Zaïre, ce dont on a parlé avant. Mais Whitmer va se préparer très sérieusement pour ce combat-là. Son employeur va lui donner du temps libre pour lui dire « Vas-y, prépare-toi bien », sachant que personne n'y croit.
Sympa, il y a même l'employeur.
Un employeur sympa. Un journaliste va même
dire «
C'est un match opposant un artiste de talent et un peintre en bâtiment, c'est dire ». Dès le début, Ali va plutôt contrôler le match dès les premiers rounds. Donc bon, on va se dire « Bon, ça va être... » assez vite plié, mais Whitmer va démontrer des énormes qualités d'encaisseur. Je vous encourage à aller voir le physique de Whitmer, c'est vraiment un grand bonhomme très costaud.
Sur l'échelle de Younes, ça fait combien de Younes?
86.
Ouais, c'est plus que Mike Tyson. Et au 9e round, il envoie même Ali au tapis d'un crochet de la rate. Bon, après, Ali dira non, en fait, il m'a un peu marché sur le pied et il m'a fait tomber, etc. Bon, mais en tout cas, ce qu'on aurait pu croire une bonne opération pour Whitmer va en fait un peu réveiller Ali, qui vexé va accélérer, va résister.
Ouais. Il sent que ça peut tourner quoi.
Il sent à ce moment-là exactement que ça peut tourner. Et donc il étonne tout le monde en tenant face à Ali pendant 15 rounds. Donc c'est quand même énorme. Et malheureusement au 15e round, il va finir par perdre sur un KO technique, mais il va sortir sous les hurrahs de la salle.
Waouh,
magnifique.
C'est Rocky quoi.
Belle histoire.
C'est Rocky. Et bah ça tombe bien que tu dises ça, Younes, parce que quelqu'un regarde ce match. Et ce quelqu'un, vous savez qui c'est?
Sylvester
Dan
Stallone.
King.
C'est Sylvester Stallone, qui est à l'époque lui aussi plutôt un acteur de seconde zone, pas très connu. Il a eu des petits seconds rôles, mais voilà, c'est quand même, c'est pas du tout la star qu'il est aujourd'hui, notamment Les Talons Italiens, qui a été renommé comme ça en fait après Rocky. Ça s'appelait pas comme ça au départ, ce film qui est un film érotique dans lequel a joué
Stallone.
Il est excellent. Il voit en Whitmer un vrai gladiateur du 20e siècle et il va tout de suite germer dans sa tête l'idée d'un scénario. Il va contacter Whitmer. Whitmer va lui raconter sa passion pour un boxeur américain qui s'appelle Rocky Marciano, qui va donner son nom à Rocky. Dans le film d'ailleurs, Rocky Balboa a des posters de Rocky Marciano dans
sa chambre.
Et il inspire cette phrase un peu du héros: même si je ne gagne pas, j'aurais démontré que je suis là. Stallone écrit le scénario de Rocky. Il refusera de le vendre tant qu'on ne lui aura pas promis le rôle principal, parce qu'en fait, personne ne veut tellement de Sylvester Stallone en rôle principal. Et finalement, il va réussir son pari. Le film est tourné en un mois avec un budget dérisoire et propulse Stallone au rang de star. Rocky gagne même l'Oscar du meilleur
film indépendant.
Incroyable.
Donc c'est, c'est un vrai film indépendant. Et le combat, quand même, le dire dans Rocky se termine un peu différemment, puisque Rocky ne finit pas par être mis KO. Il perd au point par les jurys, il reste debout jusqu'au bout.
Cool, j'avais pas vu. Super.
Pour finir et pas faire plus long, Chuck Whitmer va en vouloir longtemps à Stallone parce qu'il ne va rien toucher pour le film.
L'Amérique.
Il a même essayé de tenter une action en justice. Malheureusement, lui aussi, comme quoi ça arrive quand même souvent dans ce milieu-là, va pas très bien finir. Il va sombrer dans l'alcool, la drogue. Suite à cette soudaine célébrité, en fait, ça lui monte un peu à la tête et il tombe dans ces milieux-là. Et il sera même arrêté en 85 pour possession de 120 grammes de cocaïne.
Très bien. Voilà. Merci Sarah pour cette belle histoire. C'est une histoire incroyable aussi.
Oui.
J'avais annoncé au début de ce podcast,
mais qu'est-ce que t'avais annoncé,
que nous allions annoncer
une annonce.
Tu vas annoncer l'annonce.
Alors déjà,
tu vas annoncer l'annonce.
Je vais annoncer l'annonce. On en a même deux d'annonces. La première, je te laisse la dire, Olivier. Commence.
Oui, je vais me marier. Ah non, c'est pas ça. On nous a beaucoup posé de questions, notamment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, réseaux sociaux que
vous
invitons à liker par tous les moyens, que ce soit sur Twitter, Insta ou Facebook. On nous a beaucoup posé cette question, à savoir, est-ce qu'on peut vous proposer un sujet, est-ce que vous faites comme 2 heures de perdu? Alors, on ne connaît pas le podcast 2 heures de perdu, on s'est renseigné pour savoir comment ils faisaient.
Ah, c'est pas mal.
Alors, visiblement, ouais.
C'est des gens qui ne connaissent rien au cinéma et qui ont des rires insupportables, globalement.
Ouais, ouais, bah, ça tombe bien, nous, on ne connaît rien au sport.
Et donc, parfait. Dans 2 heures de perdu, on peut, à savoir, est-ce qu'on met un sujet 5 étoiles, un sujet, et on tire un sujet au chapeau.
Donc, 5 étoiles sur iTunes.
Mettez 5 étoiles sur iTunes.
Dans tous les
évidemment.
Cas.
Proposez-nous vos sujets si vous en avez. Il n'est pas du tout exclu que l'on pioche dedans.
Ça peut être une bonne source d'inspiration.
Donc n'hésitez pas à le faire sur iTunes. Ça, c'était
alors,
la première annonce.
La deuxième annonce, la plus importante, l'épisode de PO du mois d'avril sera enregistré en public.
Live.
Ouais.
Le samedi 6 avril à 18h, ce sera à Paris, à l'occasion de la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, organisée par la Fédération française des clubs de l'UNESCO,
qui a la gentillesse de nous accueillir.
C'est à Paris.
C'est où ?
Alors, je ne vais pas donner l'adresse exacte.
Nous allons surveiller les réseaux sociaux lundi.
Justement, voilà. Lundi. Donc, aujourd'hui, nous sommes dimanche 24, le lundi 25 mars.
C'est demain, du coup.
C'est demain. Nous mettrons sur les réseaux sociaux un lien pour pouvoir vous inscrire. Je préviens juste, et nous sommes désolés, il y aura très peu de place. C'est un tout petit lieu. Donc, les premiers servis seront premiers à réagir.
Les premiers servis seront les premiers servis.
C'est notre premier live. Donc, nous sommes modestes et nous faisons ça, nous chauffons dans une petite salle avant de faire le Stade de France.
Le thème
le Stade de France.
Le thème est encore à définir, ce sera autour du développement, de la paix et du sport. Mais donc, on vous invite, évidemment, vous êtes les bienvenus pour cet enregistrement public. Et pour nous quitter, quoi de mieux que...
un karaoké.
Yeah.
Hey. Et d'ici le 6 avril, pour les chanceux qui seront présents pour notre enregistrement, on dit tout simplement aux autres, au mois prochain.
Oui, bientôt.
À bientôt.
Pour un nouveau sujet autour du sport. Bye bye.
Bisous les gars.
Just to keep them alive. Tiger, Tiger.
Well, yeah.
Don King, Don King, Don King.
I am the Tiger. Tiger, tiger, tiger.
Rentrez chez moi maintenant, s'il vous plaît.
Non, tu restes là. C'est pas fini l'enregistrement.
C'est pas fini.
Eh, je m'adonne que c'est fini. Je vais vous foutre sur la gueule.
Oh non.
Je vais te bouffer l'oreille, salaud.
Ah oui, bouffe-moi l'oreille.